ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, présenté aujourd'hui par Bernard Anthony. Cette émission est diffusée en direct mercredi 19 septembre 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
La gloire est là.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, Bernard Anthony au micro. Dans l'émission Plus de jamais de Serge de Bekech, Serge qui est rentré sur Paris aujourd'hui, je l'appellerai tout à l'heure, j'espère qu'il va mieux, j'avais donné de ses nouvelles le mois dernier, il n'allait pas très bien, il faut le dire, ce qui n'était pas pour lui des vacances bien agréables, mais enfin, j'espère bien qu'en retrouvant Paris, il va retrouver aussi la santé, car il nous manque, et qu'il se rétablira, cher Serge, bonne réinstallation chez toi ce soir. En préambule de cette émission de la réplique, où je suis comme usuellement avec Jeanne Smith, directeur de Présent, avec Cécile Montmirail, avec David Fonté, qui nous parlera de l'Espagne, car il est de grande culture hispanique, où il vient de passer quelque temps, je souhaiterais donc donner une palme du tritinisme à Monsieur Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. En effet, à Toulouse, des cimetières ont été profanés, dont des tombes saccagées, et Monsieur Moudin n'a rien trouvé mieux de dire que il n'y avait tout de même pas d'acte discriminatoire, car les tombes visées étaient catholiques, fermées les 10 mai. Voilà donc un propos du maire de Toulouse. Je ne ferai pas l'injure aux auditeurs de Radio Courtoisie de commenter cela. Je les laisse méditer ce que peut proférer quelqu'un qui est quand même en charge d'une très grande ville en France. Cela mérite d'être inscrit dans l'histoire. Il est vrai qu'il est le continuateur de Monsieur Douste Blasi qui osait déclarer, pour ce qui est donc des attaques, les catholiques, eux, sont habitués. Hein, bien sûr, les musulmans ne s'habituent pas, les juifs ne s'habituent pas, mais les catholiques, ils sont habitués, et lorsqu'on les vise, ça n'est pas discriminatoire. Et c'est pour cela que l'émission de la réplique est aussi naturellement une émission de la griffe. La griffe qui réagit, on va parler de notre journée de dimanche, mais qui réagit par exemple avec angoisse, et j'en parle d'ailleurs dans une lettre que je vais envoyer pas plus tard que demain à Monsieur le Président de la République, lorsque des magistrats, que je ne citerai pas ce soir, nous objectent que lorsque l'on saccage, ce qui est très mal, abominable, des cimetières juifs ou musulmans, on s'en prend aux juifs et aux musulmans. Mais lorsque, disent ces magistrats, on s'en prend aux cimetières catholiques ou aux lieux de culte catholiques, lorsque les auteurs de cela sont des néo-satanistes, ça n'est pas toujours le cas, eh bien ces magistrats nous répondent qu'ils ne veulent pas instruire parce que finalement les auteurs de ces actes ne s'en prennent qu'à Dieu. Ils ne visent donc pas, selon la loi, des personnes ou des groupes en raison de leur appartenance, ils s'en prennent à Dieu. Et comme la défense de Dieu n'est pas prévue dans la loi Pleven et dans le corpus des lois dites antiracistes, il n'y a pas lieu de poursuivre. Voilà donc où nous en sommes, voyez, chers auditeurs, cette convergence de la crétinerie et de la mauvaise foi, la crétinerie totale du maire de Toulouse, hein, encéphalogramme plat, et puis donc la mauvaise foi, bien évidemment, des magistrats.
Cher Bernard, pas tout le monde accepte ce que font ces juges, et vous lancez, je crois, un grand appel à rejoindre, à ceux qui s'opposent à ces agissements de juges, à nous rejoindre dimanche 23 septembre à Villepreux pour la grande rentrée de la Griffe Île-de-France.
Oui, parce que je pense que, comme l'a dit d'ailleurs très très gentiment Jean-Marc Durand à la Une de Présent, je la remercie, la Griffe est en effet non pas dans un changement d'orientation et de cap, bien au contraire, mais dans une sorte de saut qualitatif, parce que nous ne pouvons plus nous satisfaire seulement de l'action devant les tribunaux, sans compter que nous sommes confrontés, trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, à des magistrats qui ne jugent plus en droit, mais qui jugent uniquement en fonction de leur choix militant, incapables de faire abstraction de leurs préférences personnelles. Nous en avons parlé, nous y reviendrons. Mais nous devons donc réagir plus fermement face donc à l'augmentation de ces attentats, la destruction des églises, le saccage en tout domaine de l'identité chrétienne. Voilà pourquoi nous voulons connaître nos adhérents. La Griffe est aujourd'hui numériquement une grande organisation.
Expliquez-nous pourquoi numériquement une grande organisation.
Parce que la Griffe a probablement davantage d'adhérents que l'OMRAP, que la LITRA, que la Ligue des droits de l'homme. Mais il y a une différence avec ces organisations. La Griffe n'est pas subventionnée. Ces organisations disposent de budgets 100 fois supérieurs à ceux de la Griffe. Nous, nous n'avons que les 10 euros de nos adhérents, et nous disons les choses très simplement. Bon, il y a quelques-uns qui nous donnent un peu plus, heureusement, mais les procès coûtent cher, de plus en plus cher. Lorsque nous sommes déboutés, nous devons encore payer, et c'est pour ça que nous ne poursuivons pas n'importe comment, dans n'importe quelle direction. On essaie de cibler les choses les plus abominables. Il y en a d'autres que nous ne pouvons traiter. Mais donc, nous avons 5000 adhérents. Ça n'est pas rien. 5000 adhérents vrais. Parce qu'on ment toujours dans l'ordre politique on gonfle le nombre des adhérents. Nous, ça ne sert à rien puisque nous publions notre budget, l'utilisation des sommes. Et avec cela, on ne peut pas faire grand chose. Donc, 5000, c'est trop peu, puisque nous n'avons pas de subvention. Donc nous devons doubler le nombre de nos adhérents. Et pour cela, nous n'avons qu'un moyen, c'est de rencontrer ceux qui sont déjà adhérents. C'est de leur dire nos difficultés. Et voilà pourquoi je les convie, en effet, dimanche 23 septembre, au domaine de Grand Maison à Villepreux. Beaucoup déjà d'auditeurs de Radio Courtoisie connaissent pour y avoir fréquenté différentes réunions, dont celles que nous organisons. Donc ces lieux qui sont très beaux.
Juste un aspect pratique pour nos auditeurs, ils peuvent retrouver toutes les questions pratiques, comment faire, de quelle heure, quel est le programme, sur le site de Reconquête. Donc il suffit de taper sur un moteur de recherche Reconquête.
Ou sur le blog de Bernard Anthony, qui présente donc différentes activités tout au long de cette journée.
Et présent à publier ces derniers jours plusieurs rendez-vous pour annoncer cette grande journée de dimanche.
Et donc une vraie couverture médiatique.
Une vraie couverture médiatique parce que tout le monde, hélas, n'a pas encore Internet.
Oui, alors je voudrais que ce soit surtout une journée de rencontre, donc il y aura des prises de parole, naturellement. Pour ma part, je lirai la lettre que j'envoie demain à Monsieur le Président de la République. Elle sera publiée ultérieurement, mais pas tout de suite, puisque je laisse la primeur naturellement à ceux qui seront à cette journée. Enfin, vous serez là, Jeanne, puisque, ne l'oublions pas, vous êtes vice-présidente de la Griffe, comme notre excellente amie Valrande Saint-Just, que je salue, qui doit nous écouter en ce moment.
Et à ce titre, il y a eu le saccage et le pillage de la cathédrale de Perpignan, dont la Griffe a très justement souligné que c'était un acte tout de même antichrétien, puisqu'il y a eu des destructions pour la destruction, du vandalisme pour le vandalisme. Et j'étais frappée par le fait que Madame Albanel, bon, je crois que c'est la politique du gouvernement maintenant de dépêcher un ministre chaque fois qu'il y a quelque chose qui va de travers. Ça fait de la communication, bon, c'est très bien. Madame Albanel est descendue à Perpignan dire que ce qui était scandaleux, c'est que on assistait à de plus en plus de pillages d'églises parce que des bateaux partaient avec des conteneurs chargés de calices et autres objets liturgiques pour alimenter des chapelles privées aux États-Unis. Eh bien, est-ce que cette réaction de Madame Albanel vous a satisfait, Bernard Anthony, en tant que président de la Griffe?
Non, elle n'est pas aussi consternante que celle de Monsieur le maire de Toulouse, mais enfin, elle est quand même affligeante. Elle est parfaitement affligeante, car il s'agit là d'une volonté d'occultation, d'une réalité qui motive le fait que j'essaie d'alerter Monsieur le Président de la République. C'est mon rôle de Président de la DRIF. Donc il y a quelque chose d'affligeant, parce qu'ils savent fort bien qu'il y a une montée de la haine antichrétienne, anticatholique, tout spécialement, d'origine multiforme. Nous savons qu'il y a, comme à Marseille, il y a eu incendie d'église perpétré par des militants islamistes. Ils ont été arrêtés, donc cela ne souffre aucun doute. Il y a eu, comme en Bretagne, des agressions commises par des racistes néo-satanistes. Là aussi, ils ont avoué. À Toulouse, les inscriptions satanistes donc signent en quelque sorte, et il est quand même étonnant que un membre du gouvernement ne manifeste point son inquiétude devant ce véritable racisme-là.
Oui, sans compter que le gouvernement subventionne, ou les conseils généraux, régionaux et autres subventionnent les rassemblements de musique sataniste. Ça ne leur fait aucun problème.
Sans compter ce qui est diffusé sur les chaînes destinées aux jeunes, ces dessins animés où on montre un pape décadent qui est complètement porté sur la boisson. Je pense à cette série qui est passée sur MTV en Allemagne et qui sera sûrement diffusée un jour chez nous. Il y a aussi sur MCM, mais sur notre chaîne, un Christ qui est entouré de jolies jeunes femmes et qui, pareil, est bedonnant, mange des pop-corn, boit de l'alcool. Et tout cela concourt à une dévalorisation, qui est vraiment est affligeante. Quoi.
Alors à ce sujet, je voudrais dire un mot et je l'expliquerai plus longuement. Nous l'expliquerons à ceux qui nous poseront les questions dimanche à la journée de la Griffe. Nous ne pouvons pas, hélas, poursuivre tout cela. Pour une raison simple, d'abord, c'est que nous nous entendons dire que nous voulons rétablir l'interdiction du blasphème. Non, nous voudrions établir le respect de ce qui a fait l'identité de notre nation, parce que l'on soit catholique de foi ou bien tout simplement français de cœur, on ne peut pas cracher sur les valeurs, sur les racines, sur autour de quoi s'est construit notre nation en particulier, la civilisation européenne en général et d'autres civilisations encore.
Donc il n'y a pas de fatalité à cette situation, on peut donc réagir, et nous appelons donc tous les auditeurs de Radio Courtoisie à faire la publicité de cette journée autour d'eux et à nous rejoindre donc dimanche 23 à Villepreux. L'inscription simple est de seulement 5 €, mais on peut encore s'inscrire...
L'entrée est de 5 €.
Voilà, mais je crois qu'on peut encore s'inscrire au déjeuner, Bernard.
Oui, parce que nous avons prévu, puisqu'il y a une messe à 10 h, latine et grégorienne, donc selon le rite de Saint-Pie-V, dont nous pouvons accueillir pour le déjeuner, mais uniquement si l'on s'inscrit. Le coût du déjeuner est de 15 €, je pense que ça sera très satisfaisant, et donc on peut pour cela téléphoner demain et après-demain encore exceptionnellement à la DRIF ou au Centre Charlier d'ailleurs, au 01 40 51 74 07 ou bien au 01 40 46 96 31, ou encore mieux, passer au Centre Charlier 70 boulevard Saint-Germain, siège aussi de la DRIF, où volontiers d'ailleurs, ces deux jours, je signerai mes ouvrages, l'islam sans complaisance et l'histoire des juifs d'Abraham à nos jours.
Alors, cher Bernard, vous rentrez du Liban. Lors de notre précédente émission, vous nous aviez annoncé ce déplacement. Et pendant votre déplacement, nous avons pu lire dans la presse beaucoup de mises en cause du Liban et des Libanais qui sont accusés d'avoir maltraité les Palestiniens, notamment dans le camp de Nahr el-Bared. Donc peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu et peut-être réagir à cette presse qui accuse le Liban de tous les maux.
Oui, alors, un mot, au moins une fois par an, il m'arrive de parler à Radio Courtoisie du Liban. On pourrait dire que je suis un obsessionnel de ce pays, ce qui n'est pas vrai, mais je suis effectivement très attaché à ce pays pour des raisons qui ne sont pas d'ordre sentimental, qui sont des raisons d'ordre politique essentiellement. Encore que je ne nie point l'ordre du sentiment. Et j'amène souvent avec moi des amis découvrant pour la première fois le Liban. Lorsque l'on est français, lorsque l'on est sur ces pierres, dans ces châteaux, au château de Beaufort où j'étais pour la première fois, c'est fascinant, ces forteresses construites par les croisés, quand on a le sens, l'amour de l'identité française, on ne peut pas ne pas être ému. Quand on trouve dans la grotte, dans le monastère Saint-Antoine, la crosse offerte par Saint-Louis qui séjourna 4 ans à Tyre, donc au père abbé du monastère, bon, on est ému sur cela. Et puis, plus près de nous, je vais au Liban par fidélité à des amis qui y sont tombés, notamment un militant solidariste de mon groupe, qui s'appelait Stéphane Zanetacci, un ami de nos amis du Cœur Montjoie, Jacques Arnoux, qui était allé se battre là-bas aussi. Donc c'est une question de fidélité un peu pour moi, fidélité au capitaine Borrella, qui partit se battre là-bas après s'être battu contre les communistes au Cambodge, lui aussi y est tombé, et puis fidélité aussi aux 55 paras du Drakkar, parmi lesquels il y avait 2 des abonnés du mensuel présent de l'époque, qui devait être une des filières conduisant au quotidien. Donc voilà, mais nous y allons parce que tous les paramètres de la géopolitique actuelle se croisent au Liban et que donc je suis allé cette fois-ci effectivement pour voir ce qu'il y en était. Alors je suis de ceux qui comprennent les souffrances du peuple palestinien. J'ai évoqué souvent mes rencontres avec le patriarche latin palestinien de Terre Sainte, Monseigneur Saba, donc je sais très bien combien, notamment les Palestiniens chrétiens, entre le marteau musulman et l'enclume israélienne, ou le contraire, comme on voudra, souffrent. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a fait jouer aux Palestiniens au Liban un très mauvais rôle. Ils avaient été accueillis à bras ouverts, je pourrais raconter cela dans des émissions historiques. Mais ensuite, ils ont constitué des zones de non-droit, comme on dirait en France, des quartiers transformés en camps, et puis ils ont tout simplement voulu s'emparer du Liban. Voilà la réalité, l'islamisme, les Palestiniens, pas tous, encadrés par les organisations d'extrême gauche palestiniennes, dont ont essayé de s'emparer du Liban. Alors aujourd'hui, ça a été un peu autre chose. Ils sont aujourd'hui, les Palestiniens, donc les maîtres dans des camps qui bénéficient d'une véritable ex-territorialité. Ils sont, nous le savons fort bien, surarmés. Et ils sont manipulables à souhait par les puissances dont ils jouent les jeux subtils de la politique moyen-orientale.
Et justement, Bernard, donc Monsieur Signora a annoncé que seules les forces de l'ordre libanaises assureront désormais la sécurité sur tout le territoire libanais.
Ben, pour l'instant, ce n'est pas, hélas, ce qu'elles font, mais Monsieur Signora, le Premier ministre libanais, a raison d'affirmer cela. Parce que ce qui s'est passé en Er El Bared, c'est tout simplement une tentative révolutionnaire aussi, subversive, bon, de commandos surentraînés, courageux au demeurant, essayant d'entraîner une nouvelle conflagration au pays, malheureuse nation, qui n'aspire qu'à une chose, à la paix. Parce que ce pays, paix pour tous les autres pays de la région et de la planète. Et nous ne pouvons avoir que considération pour la volonté libanaise d'assurer enfin son indépendance par rapport aux autres puissances de la région.
Alors beaucoup de nos auditeurs partagent votre amour, Bernard, pour le Liban. Comment peuvent-ils faire pour suivre les évolutions de ce qui s'y passe?
Oui, écoutez, ils peuvent s'abonner à Reconquête, parce que nous décrivons là avec beaucoup de très très belles photos, donc ce qui se passe au Liban, on comprend mieux. Pourquoi agissons-nous dans ce pays? Parce que ce pays, c'est aussi une plaque tournante. Les Libanais sont très nombreux dans le monde, et c'est la pièce maîtresse de la francophonie. Et je suis triste quand je découvre chaque année un peu plus au Liban la progression de l'anglais, avec l'université américaine de Beyrouth, qui dispose de fonds évidemment très importants. Je suis consterné de la progression de l'allemand. Le français recule au Liban. Dieu merci, et c'est le cas de dire vraiment, les écoles catholique, qu'elle soit maronite ou meltite, donc dispense un enseignement en français. Donc encore, une grande partie de la population, toutes celles qui fréquentent, qui peuvent fréquenter l'enseignement libre, parce qu'il y a, cet enseignement est payant, est éduquée en français. Donc c'est un point, pour moi, très important. Mais votre question, Cécile Montmirail...
Vous y avez répondu, donc on peut s'abonner...
Ah oui, alors, mais non, j'oubliais, je sais bien que...
C'est pas au jour long.
Mais pour connaître ce qui se passe au Liban, je le dis vraiment, pas du tout pour faire plaisir à Jeanne Smith, pas du tout pour faire plaisir à mes amis du journal présent. Il m'arrive quelquefois d'être en désaccord avec tel ou tel article du journal présent, parce qu'on est tout de même le camp de la liberté. Je le dis quelquefois
aussi. Ça m'arrive aussi, Bernard, d'être en désaccord.
Oui, mais j'ai bien vu. Parce que quelquefois, moi, je suis concerné, parce que des gens me disent, je me désabonne de présent, de Reconquête, parce qu'un tel a écrit ça. Mais enfin, un peu de liberté chez nous, à partir du moment qu'on professe le même credo et le même amour de la patrie, on peut être quelquefois en divergence. Mais moi, je le dis. Parce que je connais le Liban. Je crois, je vais pas me tarder d'en être un grand spécialiste, mais enfin, j'en étais à mon 27e voyage. Je connais et j'aime ce pays, je ne le cache pas. Le meilleur article que je lis sur le Liban, c'est celui de cet homme que je ne connais d'ailleurs pas, parce que sans doute veut-il être distrait, je comprends cela au Liban, qui est Maroun Charbel. Maroun Charbel est le meilleur commentateur, non seulement du Liban, mais de tout ce qui se passe au Proche-Orient.
Et il faut souligner qu'il a une grande culture française et chrétienne, par ailleurs, ce qui est intéressant pour nous à présent. Puisque c'est là qu'on est dans cette grande francophonie qui existait également en Turquie. J'ai habité en Turquie à l'époque, on était à la charnière. Les vieux Turcs connaissaient tous le français, enfin les gens d'un certain milieu. Et puis les jeunes, ils apprennent l'allemand parce qu'ils sont tous en Allemagne. C'est quelque chose de très... De très vrai, ce que vous avez dit sur le français.
Alors, je ne vais pas raconter tout ce voyage. S'il y a des questions d'auditeurs, je répondrai volontiers. Mais une fois de plus, je voudrais rendre un grand hommage aux soldats français qui sont au Liban. Non pas du tout à la finule, non pas du tout dont au bien fondé de la mission qu'on leur donne, parce que la mission qu'ils ont, elle est impossible, quoi. Bon, les voilà en casque blanc, avec quelques chars d'assaut peints de blanc, pour être là en tampon entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Bon, mais ce que je puis dire, c'est qu'ils font un travail d'honneur, ils sont aimés des populations, ils sont d'un comportement admirable, et je ne peux pas en dire plus. J'ai eu la grande joie, grâce au général Sleiman, commandant l'armée libanaise, de pouvoir accéder, j'en rêvais depuis longtemps, au château de Beaufort, qui domine toute la Galilée israélienne. Ça avait été un point fort construit par les croisés, tenu par les Palestiniens, objet de tant de combats. Du haut du château de Beaufort, mes amis et moi, nous avons regardé cette région. Elle est extraordinairement difficile. Et nous avons, je ne peux pas en dire plus, vérifié sur place le beau travail que font les officiers d'armée française. Et ça, je tiens à le dire ici. Ne confondons point la politique hasardeuse que la France mène dans cette région avec le boulot de nos soldats.
Alors, autre sujet d'actualité, Bernard Anthony, l'affaire de la Turquie. Ce matin, sur France Inter, au journal de 8 heures, c'est un nos auditeurs qui nous donne ce message. Bernard Kouchner a dit qu'il était partisan de l'interprétation de l'intégration de la Turquie dans l'Europe, qu'il allait se rendre en octobre prochain en Turquie et aux USA. Et il a aussi révélé que le président Sarkozy avait de fréquents contacts avec le premier ministre turc. En gros, ce qui se prépare, c'est l'abandon peut-être des promesses du candidat Sarkozy.
Oui, alors ceci est grave, parce que lors de la dernière élection présidentielle, nous avons commenté les politiques des deux candidats dans la course finale. Madame Royal était catastrophique sur le plan de ses projets, notamment sur les libertés scolaires. J'étais naturellement en désaccord avec bien des points du programme de Monsieur Sarkozy. Mais au moins, on pouvait penser qu'il était sincère. Et moi, je donne toujours un a priori de considération, un a priori, j'allais dire même de crédibilité ou de crédulité, hein, si vous voulez. Donc, je pensais qu'au moins sur ce plan-là, Sarkozy, c'était mieux que Ségolène, puisqu'elle, elle voulait de l'intégration de la Turquie. Alors, cela est très grave, et dans la lettre courtoise que j'envoie au président de la République, en tant que président de la GRIF, je lui dis quand même mon inquiétude, car ça touche à l'identité française. Alors, s'il y a revirement sur ce point, cela relève véritablement de quelque chose de plus grave qu'une non-promesse électorale tenue, parce que c'est presque l'usage, hélas. Pour moi, c'est une véritable trahison. Et là, cela va nous amener, donc j'espère, à mener toute l'opposition nationale dans toutes ses composantes à se mobiliser. Parce que on touche là, donc, aux questions que j'abordais tout à l'heure. La Turquie, que Jeanne connaît bien mieux que moi, la Turquie est un grand pays asiatique, comme le disait M. Sarkozy, c'est un grand pays musulman, c'est un pays qui est en proie à des convulsions terribles, parce que aux confins, bien sûr, de l'Irak, de l'Iran et de la Syrie, c'est un pays dans lequel les islamistes, il faut être de mauvaise foi ou ignorant comme les journalistes de la grosse presse pour qualifier ce parti islamiste de modéré, parce qu'à partir du moment qu'on ne fait pas sauter le World Trade Center, on est un islamiste modéré. Enfin, c'est tout de même un gag, hein, dont c'est un parti islamiste. C'est un parti islamiste fort du gouvernement qu'il exerce sur une nation à la démographie très importante, dont on peut penser que dans 20 ans, si M. Sarkozy la laisse rentrer, lui et d'autres, dans l'Union européenne, elle constituera 20% de la population de l'Europe, sans compter évidemment tous ses ressortissants en France et en Allemagne. Turquie asiatique, Turquie musulmane, Turquie qui n'esquisse pas le moins début de repentance, donc du génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens et des Grecs de Smyrne, donc cela, comment cela s'appelle-t-il ? Je dois dire que cela est suffocant. Cela est suffocant, ça serait, Sarkozy s'inscrirait dans le droit fil donc d'une tradition gaulliste. Le général de Gaulle avait promis de maintenir l'Algérie française. Sarkozy promet de la même façon, avait promis de la même façon que la Turquie ne rentrerait pas dans l'Europe. Ceci est dramatique.
Notre auditeur de Radio Courtoisie a signalé les propos de Bernard Kouchner, mais il y en a eu d'autres. C'était il y a une semaine le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, qui avait déclaré devant le comité Balladur sur la réforme des institutions qu'il faudrait peut-être remanier l'article 88.5 de la Constitution française, qui en réalité exige un référendum pour l'arrivée d'un nouveau pays au sein de l'Union européenne. Si cet article est effectivement abrogé ou remplacé par quelque chose d'autre, la possibilité de référendum avant l'entrée de la Turquie en Europe disparaît. C'était ce sur quoi se fondait Sarkozy pour assurer le peuple français que la Turquie n'entrerait pas sans son accord. Là, nous attendons toujours le démenti de Nicolas Sarkozy.
C'est ce que nous attendons. Voilà pourquoi, encore une fois, dimanche, je lirai la lettre que je lui envoie. Et en fonction des réponses que nous aurons ou que nous n'aurons pas, des actes qu'ils prendront, bien, je crois qu'il faudra monter d'un très fort degré dans l'opposition à ce qui serait une véritable félonie, hein, de conséquences graves pour nos enfants, parce qu'enfin, le peuple turc demeure ce qu'il a été au long de son histoire, un peuple fort à l'effet, mais un peuple extrêmement dur.
Alors, il y a beaucoup de manipulations dans la presse à propos de cette affaire de l'entrée de la Turquie en Europe.
On va parler chiffon, Cécile Montmirail.
Oui, on va parler chiffon parce qu'il y a devant nos yeux un petit article qui est surtout illustré de photos de la femme du nouveau chef de l'État turc, qui, comme on le sait, ne veut pas enlever son foulard. Et cet article est proprement une manipulation, car c'est présenté comme une affaire de mode.
Oui, alors là, je pense qu'on est en train de connaître avec l'islam, au fond, tous les procédés que l'on a connus pour nous faire avaler le communisme. Il y a là une grande similitude que Alain Besançon, d'ailleurs, qui est un intellectuel qui a viré cet outil il y a bien longtemps, Dieu merci, qui sait de quoi il parle, a analysé. La même complaisance, les mêmes compagnons de route, le communisme à visage humain, l'islam modéré. Un auditeur nous rappelle justement que Monsieur Erdogan, premier ministre turc, a dit qu'il ne veut pas que l'on parle d'islam modéré parce que cela n'existe pas, il y a l'islam tout court. Et en effet, c'est ce que nous disons, nous avons du respect, je le rappelle, pour les musulmans, surtout dans leur dimension religieuse. Mais l'islam, nous le redisons sans cesse, parce que Monsieur Sarkozy semble ne pas le savoir, ses ministres pas davantage, donc l'islam est une idéologie. Et là, donc, le port du foulard par donc l'épouse du premier ministre turc, donc aujourd'hui pardon la présidente de la République, hein, donc ça n'est pas rien, c'est l'affirmation que la Turquie a rompu avec le kémalisme, sur lequel il y avait d'ailleurs beaucoup à dire et sur lequel on se faisait beaucoup d'illusions, mais enfin aujourd'hui c'est la plus grande nation musulmane, donc du Proche-Orient, que l'on veut faire entrer dans l'Europe, donc est illustré effectivement par ce foulard. Je me demande bien si un jour d'ailleurs, Mme Kouchner, Sarkozy, enfin que sais-je encore, porteront le foulard.
En tout cas, c'est ce foulard qui avait entraîné la crise avec les militaires. Et donc, qui a conduit à presque un plébiscite hein, du parti islamiste, hein, puisqu'ils ont regagné les élections.
Comme c'est charmant tout cela, on nous dit dans le Monde que Madame la présidente de la République turque aura le choix entre une dizaine de foulards élégants. Mais le problème n'est pas dans l'élégance du foulard. Le problème est que cela symbolise la conception musulmane de la femme, et surtout c'est un signe d'appartenance islamique. Et bien nous, encore une fois, sans aucune animosité personnelle pour les musulmans, j'ai souvent dit combien j'avais pu en admirer, et notamment le grand Bachada Boualem qui nous disait mais attention face à cet islam qui oscille sans cesse entre le fatalisme et le fanatisme. Et bien nous ne voulons pas d'une France islamique islamisé, et voilà pourquoi j'avais manifesté aussi mon inquiétude devant des propos qui allaient jusqu'à penser qu'il pourrait y avoir une sorte d'alliance entre donc un candidat à la présidence de la République qui n'a pas été au second tour et le vote musulman des banlieues.
Si des auditeurs de Radio Courtoisie veulent lire un excellent petit livre de Shavor Javan qui s'intitule Bas les voiles, eh bien ils y trouveront toute une analyse mais vraiment des plus intéressantes sur ce qui sous-tend le voile et comme aliénation de la condition féminine.
Alors je dois exprimer que je ne suis pas d'accord avec un auditeur, mais il me pardonnera, qui me fait encore une allusion à l'origine hongroise de Monsieur Nicolas Sarkozy. Moi, a priori, qui suis un militant national et un militant de chrétienté, je n'ai rien contre le fait qu'un homme d'origine espagnole, italienne, portugaise, hongroise devienne président de la République française. Les Médicis étaient au service de la France, les Poniatowski étaient au service de l'Empire, les régiments de Croate ont fourni de grands officiers à Louis XIV. Donc nous sommes bien sûr attachés à l'indépendance nationale, mais notre dimension européenne est réelle. Et donc je pensais justement qu'en fonction de ses origines, origine hongroise et chrétienne pour l'essentiel, juive aussi, Monsieur Sarkozy aurait dû être prémuni donc contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que s'il y a bien une nation qui a été face à l'impérialisme ottoman, c'est la Turquie. Ben je dois dire c'est la Hongrie, merci Cécile. Là je dois dire que Monsieur Sarkozy n'utilise pas le capital d'expérience que devrait lui donner son hérédité.
Sans compter que c'est Nicolas Sarkozy qui a installé, qui a étatisé finalement la religion musulmane, et désormais nous avons entendu dire très récemment que la Caisse des dépôts et des consignations est chargée d'aider à la construction de lieux de culte musulmans partout en France.
Oui, c'est M. Fillon qui a dit ça hier soir en sortant de la mosquée de Paris. Oui.
Oui.
Alors que des églises s'écroulent chez nous et vont être démolies.
Oui, d'ailleurs il y a des auditeurs qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'effectivement un programme de destruction des églises de France était prévu. Je voudrais revenir deux petites minutes sur les manipulations autour de l'entrée de la Turquie en Europe. Il y a effectivement le côté charmant, la façon dont on présente le foulard et ces autres choses. Et puis on nous met en avant aussi des personnages censés être libéraux. Et notamment Monsieur Babacan, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères du président Abdullah Gül. Alors on nous explique qu'il est sympathique, qu'il a fait ses études à l'étranger et que donc en gros il nous ressemble, il a fait ses études aux États-Unis. Donc c'est aussi une façon de manipuler l'opinion et de nous dire, vous voyez bien, les Turcs sont comme nous.
Moi, je voudrais ici exprimer réellement un ras-le-bol. D'abord, avant le ras-le-bol, je tiens à exprimer au contraire une admiration pour les trois grands islamologues français, Yolande de Trussol et Marie-Thérèse et Dominique Turvoy de Toulouse, qui ont eu le courage d'écrire Homer de Marseille. Or, ils connaissent l'islam à fond. Ils ont été élevés dans ces pays, car je les connais bien. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'amis musulmans, arabes et autres. Mais enfin, ils ont écrit donc ce qui en était de l'islam, de cette doctrine, de cette idéologie qui ne tolère aucune réciprocité. Et je vais dire aussi mon exaspération devant la mollesse des chrétiens de ce pays, devant la mollesse des catholiques, devant la mollesse encore d'un certain épiscopat. Mais des choses peuvent peut-être s'améliorer, mais enfin, voilà. Voici maintenant que ça fait 5 mois que des immigrés occupent une église à Massy, soi-disant des sans-papiers. Alors 5 mois. L'évêque, certes, demande que cette église soit évacuée. Je remarque que cela ne se produit pas. Que se passerait-il si une synagogue était occupée? Nul doute que le gouvernement ordonnerait l'évacuation, une synagogue occupée par des musulmans, ou bien une mosquée occupée par des juifs. Ça irait vite, l'évacuation. Non, mais comme les chrétiens, les catholiques de ce pays sont inertes, voilà 5 mois qu'une église est donc occupée par des sans-papiers musulmans. Et voilà qu'aujourd'hui, donc maintenant, ça y est, ils ont organisé dans cette église les festivités du Ramadan. Alors moi, je demande oui ou non, un jour, vont-ils aller quand même dans leur mosquée? Parce qu'il y a des mosquées partout en France. Elles peuvent accueillir les sans-papiers. Comment se fait-il que le docteur Boubacar ne dise pas aux musulmans « Mais où est la charité chez les musulmans ? Pourquoi ne dit-il pas « Mais venez, sans-papiers dans nos mosquées ?» Il en surgit partout, à Tarbes, à Nîmes. Alors donc là, oui, je parle comme je le fais rarement, pour appeler les auditeurs de Radio Courtoisie à propager cet appel donc à l'insurrection morale. Hein, l'insurrection morale, ça n'est plus possible. Il faudra peut-être un jour que nous aussi, nous allions nous grouper devant les mosquées, mais là, on nous fera évacuer, j'en suis sûr. Hein, mais enfin, je lance un appel, mais quel gouvernement avons-nous pour que l'on organise désormais le Ramadan dans les églises? Moi, j'appelle les bouddhistes à occuper les mosquées, parce qu'après tout, il y a des pauvres Cambodgiens au chômage, pourquoi ils n'iraient pas dans les mosquées? Hein, pourquoi donc les imams donc ne pratiquent-ils aucune charité? C'est ça la zakat. Donc voilà, ceci montre combien nous sommes dans une décadence insupportable. En tout cas, nous ne l'acceptons pas.
Donc les Franciliens qui veulent réagir, je rappelle, puisque un auditeur nous demande de redonner quelques détails sur cette journée de dimanche. Donc à Villepreux, les portes ouvriront à 10h et l'on peut s'y rendre, je crois, soit en voiture ou par train. Est-ce que Bernard, une navette est prévue ou non?
Non, c'est très difficile. Nous sommes une petite organisation. Nous pensons donc que nous sommes aujourd'hui dans une résistance, que, je sais bien, nos prochaines réunions seront à Paris, mais qu'il faut que nos amis se regroupent eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas être comme cela, nous n'avons pas les moyens. On le ferait bien volontiers, mais nous nous battons sur trop de terrain. Voyez-vous, nous sommes...
La griffe les auditeurs encourage le covoiturage.
La griffe encourage le covoiturage. Voilà, un certain... Il y a un mot dans l'armée française pour définir cela, mais comme je suis toujours très, très courtois, je ne l'emploierai pas.
Autre sujet d'importance, Bernard, la recrudescence du communisme. Nous avons appris qu'un film allait sortir sur la tragédie de Katyn. Peut-être pouvez-vous d'abord rappeler à nos plus jeunes auditeurs de quoi il s'agit.
Oui, alors cela honore encore la Pologne. Réellement, il suffit de voir un peu partout la haine que l'on distille contre la Pologne pour dire qu'il faut aimer la Pologne. En effet, pendant des années, toute une propagande communiste, soviétique, bolchévique, avait accrédité l'idée que l'armée allemande d'occupation, l'armée nazie, avait éliminé 15 000 officiers polonais et qu'on en avait enterré un certain, on en avait enfoui un certain nombre dans les charniers de Katyn, qui n'est plus aujourd'hui en Pologne, qui est en Ukraine. Ensuite, la révélation avait tout de même fait son chemin. La révision de cette histoire-là avait abouti. Katyn était un petit détail dans l'immense fresque de l'abomination soviétique. Et c'est enfin un grand film pour la mémoire de la Pologne, mais aussi de ce qu'a été le communisme qui sort aujourd'hui. Donc, et qui sera sur nos écrans, donc film d'Andrzej Wajda, donc Katyn. Cela, je le rappelle donc, Katyn fut dans la meilleure tradition de l'abomination tchéquiste, DPU, KGB, comme on voudra, puisque tout cela, ce sont les noms donc issus de la Tchéka, Lénine disant « on ne peut être un bon communiste sans être un bon tchéquiste ». Alors cela nous permet de dire que plus que jamais serait nécessaire le grand procès devant l'histoire donc du communisme. J'avais lancé des appels jadis et nous avions organisé au Palais de la Mutualité à Paris une journée pour traiter d'un tout petit détail de l'abomination communiste, celle du camp 113 où sévissait le traître tortionnaire Boudarel, donc à l'époque protégé par M. Jospin et bien d'autres encore. On avait traité du cas Boudarel avec des témoins nombreux, le film existe de cette journée, mais c'est beaucoup plus qu'il faudrait faire. C'est le grand procès. Or, ce grand procès n'a pas eu lieu. Il a eu lieu en Lituanie, partiellement, mais c'est à Paris ou à Londres ou à Rome que pendant des mois et des mois, tant qu'il y a encore des témoins, on pourrait donc faire le procès dont la base donc, est constituée, par exemple, par l'excellent livre noir du communisme dirigé par Robert Courtois. Alors, voilà pourquoi il faut saluer ce film, mais ne pas nous en satisfaire, surtout à un moment où, que voit-on ? Une fête de l'humanité, la fête du journal qui accompagnait toutes les purges, les abominations, les massacres, qui a cautionné tout, tout et tout de l'horreur stalinienne, de l'horreur de Ho Chi Minh, eh bien... À la fête de l'humanité, j'ai écouté ce matin, il y avait Radio France, il y avait les grandes entreprises, etc. Monsieur Trivine, lui, lance un appel, on peut le lire tout cela, dans le Figaro, pour un parti regroupant aussi les anciens staliniens. Que dirait-on d'un homme politique qui dirait « on va regrouper les anciens hitlériens ». Or, être ancien stalinien, c'est tout de même pas mieux que d'être ancien hitlérien. On voit, Alain Sanders l'a noté très justement dans présent, l'ouverture d'un café Lénine. Hein, qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait un café Adolf Hitler ? Et ainsi de suite, une Marie Chantal de Paris 6 se permet de dire que les anticommunistes, les grands écrivains anticommunistes et historiens, dont toujours noté dans le journal présent, étaient des agents soviéto-nippons. Enfin, il y a donc une...
Et là, j'ai sous les yeux, Bernard, dans la page « Et vous », c'est-à-dire la page « Plaisir »,« People » du Monde, un grand article qui fait la promotion... d'un hôtel à Berlin et qui a comme particularité d'avoir une décoration du style RDA. Et on nous cite quelqu'un qui dit, et le journal appuie cela, c'est stupide, on voit les choses de façon trop extrême en effaçant cette histoire. Il y avait la Stasi, certes, bien sûr, mais des gens ont aussi passé du bon temps sous le communisme.
C'est ça, bien sûr. Bien sûr. C'est de l'horreur. Oser écrire de telles choses. Mais bien sûr, sous le nazisme aussi, des gens passaient du bon temps. D'ailleurs, même en France, Jean-Paul Sartre, le pape littéraire de l'extrême gauche, passait du bon temps sous l'occupation. Il jouait les mouches devant les officiers allemands. Picasso, d'ailleurs, déjeunait tous les jours chez Maxime. Il y a que les crapules staliniennes pour avoir pu prendre du bon temps comme il le fallait, parce qu'il n'y avait pas chez les Stals que des pauvres petit dimoqué. Au passage, d'ailleurs, j'écris aussi à M. Sarkozy que c'est bien. C'est vrai, on ne peut pas être insensible. Quand on est un national, on prend tout ce qui est bien dans le passé. Et l'attitude héroïque de ce jeune militant communiste, donc qui croyait à son idéal, ne peut être qu'honorée. Mais je crains bien qu'on manipule la mémoire de Guy Mauquet. Parce qu'enfin, quand M. Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, ose professer qu'il faudrait accompagner la commémoration, peut-être de lecture de poèmes d'Aragon, l'abominable, l'horrible Aragon, qui donc était le pire cireur de pommes de Staline, qui trouvait que l'on n'en tuait pas assez, qui faisait des vers que je lirai ici une autre fois, mais que j'envoie à Monsieur Sarkozy, sur le fait que l'on fusille et que l'on ne fusille pas assez. Mais enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, on aurait bien aimé au passage que Monsieur Sarkozy fasse par exemple mémoire aussi du jeune lieutenant catholique et royaliste fusillé lui aussi, donc honoré d'Étienne d'Orves, et qui écrivait lui aussi à sa famille une lettre fort émouvante. Parce que voyez-vous, quand on est national, on se souvient des uns et des autres.
À propos du film Catine, en préparant cette émission, Cécile Montmirail, vous avez signalé que Le Monde avait parlé de ce film sans même évoquer le fait que le massacre de Catine avait été attribué aux nazis.
Non, effectivement, donc dans la page que lui consacre Le Monde samedi 15 septembre, le journaliste ne fait nullement mention de cette manipulation de l'histoire qui a consisté à attribuer aux nazis le massacre de Katyn. Et il a fallu attendre, je le rappelle pour les jeunes auditeurs, Gorbatchev, qui a dit du bout des lèvres que Katyn était soviétique, et finalement Eltsine.
Oui, il y a ici un auditeur que je vais épingler. Et j'espère qu'il va se reconnaître et j'espère le voir dans 48 heures. Parce que il fait partie de ceux qui me disent il faut autre chose que de la prise de parole et d'insurrection morale. Alors là, je voudrais dire ceci, c'est qu'à intervalle régulier, je vais d'ailleurs donner dans un instant la parole à Frédéric Pichon qui vient d'arriver. Nous mobilisons dans la rue pour des manifestations. Et quelquefois, ces manifestations ne sont pas très faciles. Quelquefois, nous nous sommes trouvés dans des conditions très dures. Et que même, pour ce qui est du communisme, il m'est arrivé d'aller avec Alain Sanders au Nicaragua combattre la Contra. Nous sommes allés dans les camps en Indochine. Alors, cet auditeur fait partie de ceux qui nous disent qu'il faudrait faire autre chose. Mais quand nous faisons des appels pour venir au moins nous soutenir devant les tribunaux, il y a 30 personnes. Lorsque nous faisons des appels pour la culture de vie dans nos manifestations, il y a 150 personnes. Il y a donc des milliers de pèlerins de Chartres, par exemple, qui prient bien, c'est très bien, mais on ne les voit jamais ensuite. Alors c'est bien d'applaudir Jean-Paul II et Benoît XVI, mais ensuite, lorsque nous nous manifestons dans la rue, ils n'y sont pas. Alors celui qui vient de m'écrire cela, j'espère bien qu'il va avoir pour honneur, parce que c'est un anonyme, de venir à la manifestation dont on va vous parler dans un instant. Je donne la parole d'abord à Jeanne.
Anthony, j'ai vu passer ce message sous mes yeux. Quand il dit il faut autre chose, est-ce qu'il ne vous invite pas à prendre le pouvoir, tout bêtement?
Et
avec beaucoup de sympathie.
Oui, j'en doute, parce que quand on dit il faut autre chose, ça veut dire strogneilleux. Hein, donc, mais strogneilleux, oui. Mais en attendant, il faudrait au moins avoir davantage d'abonnés à nos journaux. Il faudrait avoir du monde dans nos manifestations. Et puis on verrait bien. Et prendre le pouvoir, nous le voudrions bien. Nous le voudrions bien à condition qu'il y ait 1000 hommes décidés dans Paris pour donc organiser donc l'insurrection en effet intellectuelle, morale, et puis les manifestations révolution qui s'impose. Nous ne sommes pas des comploteurs, nous n'appelons pas à des révolutions violentes, mais nous appelons, le cas échéant, à la nécessaire défense, ne serait-ce que de nos églises. Hein, alors là, oui, occupons nos églises, expulsons ceux qui veulent les occuper. Ça, je pense que c'est notre droit le plus absolu que la loi nous reconnaît.
En ce qui concerne les occupations d'églises, il y a eu une occupation d'église qui a tourné court. Hein, c'est celle qui avait été, c'est la tentative par les Verts d'envahir Saint-Nicolas et Chardonnay. Ils ont trouvé à qui parler et ça tournait rapidement au désastre. Hein, je veux dire, les catholiques n'ont qu'à défendre leur paroisse.
Et moi, pour rebondir sur l'insurrection intellectuelle et morale que nous défendons dans Reconquête, dans Présent, à la Griffe et ailleurs, oui, occuper le terrain culturel, ça paye. La gauche le sait bien, elle en a profité pendant de longues années.
Alors, il va y avoir l'occasion de vous soutenir, Jeanne, donc sur une action concrète, donc que les auditeurs prennent note. Il va y avoir donc le procès de Présent dans les jours qui viennent. La date a été
fixée en septembre devant le tribunal de Nanterre. En fait, j'étais à l'audience de fixation. Le juge était content, je crois, de me voir. Nous sommes poursuivis pour avoir dit du mal d'Henri-Claude Cousseau, qui a organisé une exposition que je qualifie de pédopornographique à Bordeaux il y a 6 ans. Lui-même est mis en examen dans ce cadre. Ça s'appelait « Présumé innocent » et mettait à la vue du public des œuvres d'art, on va appeler ça comme ça puisque c'est ainsi que l'art contemporain se qualifie, mettant en scène des enfants dans des postures et des positions que je ne vous décrirai pas parce que je souhaite rester honnête. Eh bien, nous sommes poursuivis dans ce cadre et nous passerons devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 6 novembre prochain à 13h30. Présent sera défendu par maître François Wagner. Nous allons faire pour ce procès quelques battages. Je vous annonce une page dans Présent samedi à propos de l'art contemporain. Je crois que là, c'est une de ces batailles culturelles qu'il faut aussi savoir mener.
Et nous y serons physiquement à ce procès. Cela est très important.
Alors, autre bataille importante, celle pour la liberté d'expression pour les Européens. Frédéric Pichon, vous appelez à une manifestation vendredi 21. Est-ce que vous pouvez donner aux auditeurs le cadre de cette manifestation ?
Oui, merci à Simon Miraille. Une manifestation que nous organisons au nom de l'association Europa Gentes, conjointement avec Bernard Anthony, Chrétienté Solidarité et de nombreux mouvements ou associations qui ont appelé à se joindre à nous. Puisque les auditeurs de Radio Courtoisie ne le savent peut-être pas tous, mais le 11 septembre dernier, à Bruxelles, des militants nationaux et identitaires ont voulu organiser un rassemblement contre l'islamisation. Ce rassemblement a été interdit par le bourgmestre de Bruxelles, un maire socialiste, sous prétexte que cela attisait en quelque sorte les extrémistes musulmans. 154 personnes ont été interpellées dans des conditions d'une violence extrême qu'on peut voir d'ailleurs sur Internet, parmi lesquelles 3 députés européens. Or, cela est particulièrement scandaleux d'une part, parce qu'une manifestation, ça ne s'interdit pas. Mais en plus, on a interpellé 3 députés européens qui sont, je le rappelle, et Bernard Anthony a été eurodéputé, protégé par l'immunité.
Non, j'ai été député français au Parlement européen.
Député français au Parlement européen.
Petite nuance.
Bon, excusez-moi Bernard.
Oui, Bernard.
Mais en tout cas, de cause, en droit, les députés sont bénéficiés d'une immunité. Cette immunité a été violée. Karl Lang a été pendant 6 heures... en garde à vue, enfin maintenu par les policiers qui semblaient ne pas connaître les lois essentielles. Donc nous sommes face à des États européens en pleine déliquescence qui violent les principes mêmes, qui violent leurs propres lois et les principes mêmes sur lesquels ils prétendent, n'est-ce pas, donner la leçon aux patriotes français et européens. Donc il ne faut pas laisser faire, c'est pas parce que ça s'est passé en Belgique, d'abord parce qu'il y a un député français qui s'est fait arrêter. Donc il faut montrer notre solidarité à nos camarades patriotes flamands et wallons qui sont confrontés à un État en pleine déliquescence, l'État belge dans lequel les ministres ne connaissent même plus leurs hymnes nationaux. C'est-à-dire qu'on prend le multiculturalisme, mais on ne connaît même plus l'hymne national belge. On refuse de reconnaître les racines chrétiennes, mais on favorise l'expansion de l'islam et on interdit ceux qui dénoncent cette islamisation.
Alors, où doit-on se rendre pour participer à cette manifestation.
Alors, à proximité de l'ambassade de Belgique, c'est le vendredi 21 septembre, donc c'est après-demain, 21 septembre à 19h30, métro Charles de Gaulle Étoile, sortie avenue Carnot, et non pas MacMahon comme on l'a mis initialement, donc RER A, sortie avenue Carnot, donc métro Charles de Gaulle Étoile, à 19h30, à l'appel de nombreuses associations, Europa Agentes, le mouvement du Pays Libre, Chrétien et Solidarité, le MNR aussi a appelé à venir, enfin...
Redisons bien le lieu, Frédéric, si tu permets. Hein. Alors, métro Étoile.
Charles de Gaulle Étoile, sortie avenue Carnot.
Sortie avenue Carnot. RER A, sortie avenue Carnot. Et quel numéro exactement
Alors non, c'est la sortie du... La sortie de,
oui, c'est en haut, c'est sur la place.
C'est en haut, à 100 haut de la place des Champs. En fait, l'ambassade de Belgique se trouve rue Tilsit, donc c'est une rue qui tourne autour des Champs.
Voilà.
Donc on sera environ 100 mètres, puisque pour des raisons diplomatiques...
Naturellement, dès que tu as eu cette idée... moi, j'ai approuvé. Chrétienté Solidarité appelle tous ses amis, le Centre Charlier. Ce n'est pas tellement la vocation de la griffe qui est différente, mais je dois dire que je serais heureux que quand même les amis de la griffe nous rejoignent en cette occasion. Je suis heureux qu'il y ait beaucoup de sensibilité nationale au-delà de nos différences et divergences quelquefois. J'y serai surtout en tant que député européen, parce que ancien député européen, parce que je crois avoir mouillé ma chemise dans cette assemblée. J'espère que beaucoup de députés européens ensuite sont allés comme moi aux quatre coins du monde porter l'honneur de la France. Je suis heureux que Karl Lang, que j'aime beaucoup, qui est un ami très cher, ait été dans cette affaire-là. Je sais son courage et je suis heureux de constater que lui n'a pas varié sur la question des rapports avec l'islam. J'espère bien que d'autres députés européens nous rejoindront pour dire leur exaspération et qu'ils ne sont pas devenus des lèches-babouches.
Et une autre précision, même si ce n'est pas directement en lien, mais Bruxelles, c'est le siège quand même de l'Union européenne qui veut intégrer la Turquie dans l'Europe. Turquie à propos de laquelle M. Sarkozy s'était engagé.
On en a parlé avant le carré.
Hein évidemment, cette manifestation sera aussi l'occasion d'interpeller le président de la République pour dire non à l'islamisation, puisque nous sommes en présence d'un pays qui a 71 millions d'habitants, dont 99,99% de musulmans. Donc c'est aussi une façon d'interpeller les autorités françaises.
Nous allons en parler d'abondance comme nous venons
par rapport à ce sujet.
Je pense que nous ne nous limiterons pas à l'abomination bruxelloise, mais nous exprimerons, comme je le fais dans la lettre que j'ai annoncée ici à Nicolas Sarkozy, notre consternation devant les propos de M. Bernard Kouchner, dont je me souviens, il est vrai qu'en Croatie, on l'appelait Bernard Cauchemar.
Donc rendez-vous tous le vendredi 21 septembre à 19h30 devant l'ambassade de Belgique, rue de Tilsit, métro Étoile, sortie avenue Carnot.
Pour la liberté d'expression, de pouvoir dire que l'islam n'est pas une religion mais une idéologie conquérante, juste à preuve du contraire.
Et pour tout renseignement, les auditeurs peuvent aller sur le site europaagentes.com. Europaagentes.com, voilà.
Alors Bernard, vous avez souligné à propos du film qui sort sur Katyn, la résistance héroïque de la Pologne, ce qui va nous permettre de parler d'une autre affaire, puisque nous avons appris que la Pologne s'opposait à la création d'une journée contre la peine de mort. Et donc la Pologne a proposé, au contraire, que l'on adopte ou que l'on fasse une journée pour la promotion de la vie, contre l'euthanasie, contre l'avortement. C'est donc effectivement un peuple qui résiste, et cela est très réjouissant de voir comment la Pologne va retourner, comme dans l'aïkido, la force de l'adversaire pour la lui replaquer.
Ben, ces Polonais sont admirables, et voilà pourquoi c'est avec une grande joie, n'est-ce pas, Cécile Montmirail, que d'ici 3 semaines, nous serons en Pologne, à l'invitation de nombreux groupes, que nous retrouverons là des vieux amis
que nous avions connu jadis au temps de l'état de siège, dont le Marais Diorec, donc qui est un leader anticommuniste indomptable, et beaucoup d'autres. Donc nous serons en effet en mission, 5 membres du Pays Libre et de Chrétienté Solidarité, mais il faudra, donc continuer à dire à nos amis polonais, bravo, continuez le combat, vous êtes aujourd'hui la nation fanale de la liberté européenne.
Alors vous tissez de nombreuses relations avec d'autres résistants des différents pays européens, que ce soit avec l'Espagne, vous y étiez l'année dernière, que ce soit avec l'Italie, que ce soit avec la Pologne. Pouvez-vous nous dire, Bernard, dans quel esprit vous tissez toutes ces relations et
Écoutez, à l'instant même, je vais dire avec rage, c'est que j'apprends avec tristesse, soulagement un peu, qu'une voiture piégée a explosé encore, faisant de nombreuses victimes au Liban. Elle visait la voiture de Madame Amine Gemayel. Alors j'étais chez Amine Gemayel, qui a perdu son fils Pierre il y a une semaine. Donc je ne m'attendais pas à trouver cela. Alors là, je dois le dire aussi, car tout cela est signé. Il faut tuer les députés anti-syriens. Et quand dans une certaine extrême droite, on a de la complaisance pour la Syrie, pour les Palestiniens, pour l'Iran, cette extrême droite, je le dis très clairement, c'est pas la mienne, parce que je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas de cette tradition-là. Là, je dis encore mon indignation, parce que leur faut-il, ce sont les agents syriens qui ont tué nos parachutistes, qui ont tué le colonel Gouttière, qui ont tué l'ambassadeur Delamar, qui doivent tuer encore et encore des députés pour que le général Aoun puisse être élu à la tête de la présidence de la République avec les voix du Hezbollah et pour pouvoir ainsi, donc pour le échanger cela, avec l'abandon du statut de 43. Et voyez, j'ai quitté Samir Jaja qui m'a dit cette Rida t'embrasse, mais elle ne peut même pas venir te voir car nous sommes tous menacée. Cette Rida, c'est son épouse héroïque. J'ai quitté Solange Gemayel en pleurs, qui m'a dit, on nous a empoisonné nos chiens. J'ai quitté Amine Gemayel en pleurs, qui m'a dit, c'est maintenant ma femme, mes enfants qui sont visés. Et là, je le dis de la manière la plus claire, ceux qui manifestent une quelconque, qui reçoivent du fric quelquefois. Et là, j'en sais plus que je n'en dirai de la Syrie et autres, ils ne sont pas mes amis. Et je ne ferai pas le compromis nationaliste avec eux. Cela est bien clair. Jamais, on obtiendra cela de moi. Je suis évidemment très révulsé, vous le pensez bien, parce que j'étais une semaine jour pour jour sur tous ces lieux et chaque fois, évidemment, je retourne au Liban, c'est pour aller présenter mes condoléances à des amis qui sont assassinés. Voilà. Excusez-moi, je me suis un tout petit peu emporté, chers auditeurs, mais on vous comprendrez pourquoi.
Oui, bien sûr, Bernard, on vous comprend et c'est vrai que autour de la table, nous sommes nombreux à être venus avec vous dans ce pays qui nous est cher, le Liban, et nous avons été témoins du courage de ces chrétiens libanais qui se battent malgré la mort de leur mari, malgré la mort de leurs enfants, et notamment Solange Gemayel qui a perdu un mari, un enfant, un cousin, un oncle, et qui, après s'être recueillie auprès des tombes de sa famille, a pris ses lunettes, un discours, et nous a lu un texte qui nous demandait de nous battre, et elle-même continue ce combat, et c'est pour nous une source d'espérance que de voir ce peuple chrétien qui refuse de mourir, et à nous aussi, Français, de nous battre pour ne pas être un jour dans cette situation-là. Alors je vais me tourner vers David Fonté, qui revient, lui, de l'Espagne, car en Espagne aussi, beaucoup de combats sont en cours et le peuple espagnol, notamment les évêques espagnols, résistent aux attaques de la culture de mort. Alors il y a plusieurs articles qui sont parus sur l'Espagne, notamment sur l'éducation à la citoyenneté, qui alors nous dit le monde diviserait l'Église espagnole, et puis aussi une tentative de promouvoir la mémoire des victimes de guerre, de la guerre civile de l'Espagne, mais en fait de promouvoir la mémoire des républicains.
Oui. Et juste une incise, Cécile Montmirail, c'est qu'à chaque fois que le procédé du monde est le même, dès qu'une initiative dans le bon sens est prise, on la présente comme divisant l'Espagne. Vous voyez, les deux titres sont les mêmes. Cela divise l'Espagne. Et quoi encore?
Ça s'explique très facilement parce que le Monde, il faut savoir que le groupe Prisa, qui est un empire médiatique espagnol, était dirigé jusqu'à cet été puisqu'il est mort par Jesús Polanco, qui est l'homme, le Citizen Kane espagnol, c'est lui qui a fait Zapatero. Et donc Monsieur Polanco, maintenant son fils évidemment qui lui a succédé, a des parts dans le Monde. Et il est évident que l'Empire Polanco et le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol confondent leurs intérêts. Donc c'est normal que le Monde ne rende pas compte de cela. Maintenant, ce qui se passe en Espagne, c'est assez grave. Ce qui est exaspérant pour quelqu'un qui aime ce pays comme moi, c'est justement que l'on n'en rende pas compte suffisamment de cette situation. Il faut savoir que M. Zapatero a joué aux apprentis sorciers, et qu'est-ce qu'on a? On a un pays qui peut éclater dans les 10 prochaines années, c'est clair. Les nationalistes galiciens, catalans et basques n'ont jamais été aussi forts. Il s'agit de forces centrifuges qui, évidemment, n'ont qu'un intérêt, c'est la désintégration de ce pays, de ce vieux pays, de cette vieille culture. Et, évidemment, c'est très, très difficile à vivre pour les conservateurs qui sont mais vraiment diabolisés. Il est impossible pour les conservateurs espagnols d'assister aujourd'hui à une manifestation publique sans qu'ils soient agressés physiquement, sans qu'il soit menacé de mort. C'est ce qui s'est passé pendant la célébration de la Diada catalane, c'est-à-dire la journée, entre guillemets, nationale des Catalans. La délégation du Parti Populaire Espagnol de M. Rajoy n'a presque pas pu défiler. Heureusement qu'il y avait la police, il se serait fait écharper. Et il faut savoir aussi qu'au Pays Basque, il y a 200 personnes environ qui vivent tous les jours avec 3 policiers, 3 gardes du corps, parce qu'autrement, ils se feraient tuer. Il faut savoir que le drapeau espagnol ne peut pas flotter sur certaines municipalités de Catalogne, du Pays Basque, et maintenant je le regrette puisque je suis originaire de là, de la Galice. Je crois très sincèrement, pour faire court, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, que nous avons engagé en Espagne un processus comme celui que connaissait la Yougoslavie à la fin des années 80. Je le dis, je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais le pire est à prévoir. Il y a bientôt le verdict, là, dans 15 jours, des procès du 11 mars, là, c'est un fiasco comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Et il y a aujourd'hui, je vais faire court, mais il n'y a pas de preuves contre les personnes qui sont dans le box. C'est-à-dire que ceux qu'on nous a présentés comme étant les auteurs matériels de l'attentat, eh bien, sont, sur la base des analyses d'explosifs qui ont été faites, eh bien, innocents. Et s'ils sont condamnés, ce sera politique. Enfin, c'est une affaire à suivre. Je veux bien revenir pour vous en parler
bien sûr,
dans les prochaines émissions.
Et moi, David Fontaine, je voudrais quand même vous reposer la question de cette fameuse loi d'éducation à la citoyenneté. C'est un nouveau programme qui est imposé dans les écoles espagnoles, quelles qu'elles soient. C'est une éducation à la citoyenneté qui comprend tout ce qui est éducation au respect de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles et tout le reste. Et il y a en Espagne, ce que nous ne connaissons pas chez nous, ici en France, il y a une réelle mobilisation épiscopale et populaire. Juste pour terminer mon propos, en France, cette éducation à la citoyenneté, eh bien, elle est dans les mœurs et elle est dans les écoles sous contrat privé catholique. Et là, on y a droit à peu près partout. Alors, comment ça se passe en Espagne? Quelle est la raison de cette résistance qui est quand même extrêmement vigoureuse?
Eh bien, les pétitions recueillent des dizaines de milliers de signatures. Les associations de parents sont vraiment très très fortes. Et c'est quelque chose de nouveau pour l'Espagne que d'accepter qu'il y ait une éducation à la masturbation dans les écoles, dans le secondaire. C'est très très nouveau de voir qu'il y a du prosélytisme en faveur de l'homosexualité. Les parents n'acceptent pas ça. Et l'Église espagnole, évidemment, déploie tous les moyens parce qu'elle n'a pas les complexes de ses voisins. Voilà.
Nous recevons beaucoup, beaucoup de messages d'auditeurs et la plupart vraiment débordent de gentillesse pour nous, d'accord avec ce que nous disons, je les en remercie. Alors, je ne peux pas tous les traiter, qu'ils me pardonnent. Je remercie surtout ces Kabyles que je connais, qui me disent qu'ils se convertissent au catholicisme parce que eux aussi, ils ont le souvenir maintenant du génocide qu'a été l'islamisation de Kabylie, se souviennent de la résistance berbère menée par l'Akaïna.
On peut aussi dénoncer le faux jugement contre M. Fraîche, qui avait traité de sous-hommes les Kabyles au passage.
Les harkis, c'est différent. Bon, bien sûr, il s'était emporté contre certains harkis auxquels il reprochait de collaborer avec le régime gaulliste qui les avait traités. Cela, on pouvait le comprendre, mais les traités de sous-hommes étaient tout à fait inadmissibles, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des harkis manipulés qu'on doit oublier ce que leurs pères ont versé de sang pour la France, et tous ceux qui ont été abominablement donc livrés donc aux égorgements et aux pires tortures par le FLN. Un auditeur nous dit aussi que Guy Mottet a été fusillé par les Allemands, mais il n'était pas résistant. Il était otage. Il était parmi les otages de Chateaubriand, nous le savons. Donc, dans la lettre que j'envoie à Nicolas Sarkozy, je ne fais aucunement la confusion, mais je considère qu'effectivement, donc il mérite la mémoire française, et encore une fois, qu'il mérite que Honoré d'Étienne d'Orve et bien d'autres encore méritent aussi la même mémoire. Un auditeur dit à Tatine, ça n'est pas 4000 officiers, mais 15 000. Non. À Tatine même, c'est 4000 et quelques, 520 environ, officiers qui ont été abattus. Mais il y a ensuite des dizaines et des dizaines de charniers un peu partout. L'élimination a porté, comme je crois l'avoir dit, sur 15 000 officiers. Bon, mais cela est effectivement important. Mais je le disais, hélas, petit détail dans l'immense donc abomination du communisme. L'auteur du livre noir sur le communisme, qui est un livre essentiel qu'il faut avoir, n'est pas Robert Courtois, mais Stéphane. En effet, oui, quelquefois dans la rapidité, j'ai le défaut de me tromper de prénom et il faut toujours m'apporter rectification. Merci à l'auditeur. Voilà donc alors on me demande d'annoncer des réunions, je le fais bien volontiers, une réunion organisée par le Forum de la France chrétienne le vendredi 28 septembre à Versailles, donc 8 rue d'Artois, avec un débat sur l'enseignement catholique avec Monseigneur Éric Aumônier, évêque de Versailles. Une conférence au Centre Saint-Paul, mardi 25 septembre à 20h, par M. l'abbé Olagnier, l'enjeu de l'Église et la Messe. Le Centre Saint-Paul, c'est 12 rue Saint-Joseph, 75002 Paris.
Jeanne, vous avez parlé de cette offensive en Espagne dans les écoles. Cette offensive, vous l'avez souligné, existe aussi en France. Et il y a eu quand même une actualité ces dernières semaines avec la publication de la lettre de Nicolas Sarkozy aux enseignants.
Je crois pas aux enseignants, c'est assez curieux. Il a écrit aux éducateurs. Et alors, pour lui, les éducateurs, c'est pas seulement les enseignants, c'est aussi les parents. Et en réalité, sa lettre, c'est une sorte de prêche, où il dit beaucoup de bonnes choses, parce qu'il a des écrivains qui sont habiles et qui savent toucher le cœur des électeurs de droite, comme nous le savons. Et Sarkozy, que j'appelle en l'occurrence Sarkozy double face, appelle les enseignants et les éducateurs à faire respecter la morale, à tenir un discours d'exigence. Enfin, on trouve là un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes et que je pense on pourrait contresigner dès demain, notamment lorsqu'il dit que les adolescents aujourd'hui ont un défaut de culture, un défaut de vocabulaire, un défaut de structure de pensée qui les conduit à devenir violents. C'est exactement ce que dit le professeur Israël, c'est exactement ce que dit Jacqueline de Romilly, et c'est exactement ce que dit Elisabeth Nitz, dont je ne saurais trop recommander la lecture. Elle a fait un livre essentiel sur l'éducation qui s'appelle « L'école des illusionnistes ». Ça, Elisabeth Nitz est à lire. Alors là, on a un président étonnant donc qui tient ce discours, mais qui tient ce discours d'un point de vue parfaitement étatique, parce que si l'État vient expliquer aux parents comment ils doivent éduquer leurs enfants, c'est qu'il y a un petit problème. Les parents sont antérieurs à l'État en la matière. Et plus que cela, parce qu'il doit avoir, je crois, deux deux écriveurs ou écrivains de discours, plus exactement. Il en a un qui tient un discours de droite, un discours d'ordre, un discours de morale, et puis il en a un autre qui donne les consignes concrètes, si vous voulez. Et notamment la consigne de faire respecter systématiquement les autres cultures, la pluriculture, le métissage culturel. Ce sont des mots qui reviennent dans le discours de Sarkozy. Je crois que ça, c'est profondément ce qu'il souhaite. Il en donne la preuve lorsqu'il prône la discrimination positive. C'est lui aussi qui a prôné l'abandon de la carte scolaire. Et il redit dans cette lettre aux éducateurs que c'est pour lutter contre la ségrégation. On ne sait pas ce que ça veut dire là encore. Et puis, que veut finalement Sarkozy, qui fait un éloge magnifique du travail manuel, qui fait un éloge magnifique de la culture, de la littérature, du théâtre et du reste? Eh bien, il dit, il faut ouvrir l'école, y faire entrer des artistes, des éditeurs, etc. Alors, quand il propose que les élèves des écoles, des collèges découvrent l'artisanat, eh bien, on est ravis, on dit, enfin, est-ce qu'on va arriver à un enseignement un peu plus concret, un peu plus réel, un peu plus attaché au réel? Mais quand il nous dit qu'il souhaite que nos chères têtes blondes ou moins blondes découvrent aujourd'hui les éditeurs et les artistes, eh bien nous savons très bien de quoi il retourne. Nous savons très bien que aujourd'hui la culture est colonisée par la gauche, est colonisée par une anticulture et par une culture de mort. Donc je pense que ce qui ressort de cette lettre de Sarkozy aux éducateurs est plutôt inquiétant pour nous. Je crois qu'il faut vraiment, vraiment analyser le discours de Sarkozy, le lire. On y trouvera beaucoup de belles choses. Ça explique que beaucoup de gens aient voté pour lui. Et s'il pouvait les mettre en œuvre, nous ne serions qu'heureux de le voir. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir l'œil ouvert.
Oui, parce que s'il y avait des revirements sur l'éducation comme ceux qu'on connaît sur la Turquie, ça serait très inquiétant.
Et je crois que ça se met en place, honnêtement, hein, Bernard.
Bon, ben ça c'est un bon point. Nous ne sommes pas des opposants systématiques. On préfère.
Je crois qu'il faut vraiment se méfier.
Oui, vraiment la méfiance est de rigueur. Voilà. S'il y avait quelques évolutions positives,
ça serait heureux.
On ne cracherait pas dessus. On serait les premiers à le saluer. Mais la méfiance, hélas, oui, de rigueur. Cécile Montmirail, justement, vous qui suivez de très près, qui avez interrogé pour Reconquête, des auditeurs me demandent comment vous aider. Eh ben, c'est très simple. D'abord, s'abonner à Reconquête, 70 boulevard Saint-Germain. L'abonnement, c'est 45 €. Vous verrez que notre vue progresse et notamment, elle s'ouvre beaucoup aux questions économiques et sociales, tout en étant sur ses fondamentaux, sur les valeurs. Mais Cécile Montmirail, c'est vous qui avez mené, je crois, un très bel entretien avec un grand dirigeant d'entreprise français. Pouvez-vous nous dire votre jugement sur l'actualité économique et sociale très rapidement?
Votre question est
ambitieuse. Elle est énorme. Mais quelques points.
Alors, je voudrais d'abord reparler de cette interview de ce grand dirigeant d'une des plus grandes entreprises françaises dans le secteur de la chimie, car la question se pose, me semble-t-il, du patriotisme économique. Nous sommes ici tous des patriotes. Nous souhaitons défendre notre pays, défendre l'emploi dans notre pays, car il est important que les Français aient un travail, puissent nourrir leur famille. Souvent, dans la presse ou dans les déclarations d'intention de nos dirigeants, on nous parle de patriotisme économique et de façon la meilleure façon pour garder nos emplois. Et donc, il nous est paru intéressant d'interroger quelqu'un qui est un patriote. Mais j'allais dire un patriote intelligent et qui, au lieu de s'affronter directement aux forces qui sont aujourd'hui dominantes dans le monde, essaie de faire un peu comme avec l'aïkido, de prendre la force de l'adversaire et pour défendre les intérêts bien compris de notre pays. Et c'est donc tout l'objet de cet entretien où nous avons à la fois parlé d'Airbus, de la politique d'Airbus, de l'alliance avec l'Allemagne, mais aussi des façons de contrôler le capital des entreprises à la fois par les Japonais, à la fois par les Anglais, de l'ouverture des marchés. Et je crois que cet entretien est très important pour nous, patriotes, car souvent nous négligeons ces sujets et qu'il nous faut aussi prendre à bras le corps ces sujets, les étudier et faire des propositions. Et il y a donc dans le dernier numéro de Reconquête des propositions concrètes, à la fois une analyse de la situation par quelqu'un qui s'y connaît et aussi des propositions concrètes pour défendre l'industrie française qui a beaucoup de qualités, où en France nous donnons naissance à beaucoup d'ingénieurs de très grande qualité qui souvent nous quittent car nous ne sommes pas capables de les garder chez nous et parce que nous ne sommes pas capables de défendre notre industrie. Et là, nous avons des éléments et donc j'encourage tous les auditeurs qui sont intéressés par ces questions à se procurer Reconquête et peut-être que ça leur donnera envie ensuite de s'abonner à cette revue qui traite de sujets de fond et qui fait en fait ce que devraient faire tous les patriotes qui ont envie de se battre, qui ont envie de se résister, c'est-à-dire d'analyser les phénomènes contemporains et puis ensuite, à travers notre doctrine, de les orienter dans le bon sens. Et c'est tout votre travail, Bernard, sur l'islam, sur la franc-maçonnerie, sur la culture de mort, pour vous, Jeanne Smith, et qui permet ensuite de savoir où porter le fer et où se battre. Alors, sur la situation de notre pays, il y a beaucoup de choses. Il y a actuellement beaucoup de discussions qui sont en préparation, d'une part sur le Grenelle de l'environnement, d'autre part sur la réforme des régimes spéciaux, la réforme à venir aussi de la représentation syndicale, d'après le rapport Adas Lebel dont nous avons parlé cet été lors de l'université d'été de Reconquête. Donc les choses se mettent en place, enfin les discussions. Et c'est vrai que là aussi, d'une part en ce qui concerne l'écologie, mais aussi en ce qui concerne le social, nous avons beaucoup à travailler parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et c'était aussi ce que nous disait ce grand dirigeant d'entreprise. Par exemple, le développement durable, nous devons l'analyser car il peut être pour nous une formidable occasion de faire du patriotisme sans le dire, en édictant des règles de protection des personnes, de protection de l'environnement, pour l'entrée sur notre territoire de certains composants ou de certains produits. Et c'est vrai que l'affaire des poupées Mattel produites en Chine nous montre que nous pouvons, de par des législations de développement durable, par des législations environnementales, empêcher que notre marché intérieur soit inondé par des produits venus de pays qui ne respectent ni l'environnement ni les personnes. Car je rappelle que dans le développement durable, il y a notamment, bien sûr, ce à quoi tout le monde pense de façon spontanée, une préoccupation environnementale, mais également une préoccupation sociale, et que nous sommes en Chine dans une dictature communiste, comme on oublie de le dire très souvent, et que le respect des travailleurs n'est pas l'apanage du communisme, malgré les discours dont on nous assène à longueur de journée. Et je voudrais d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, car j'ai l'habitude de taper sur le monde régulièrement pour la propagande et son esprit de collaboration avec les ennemis de la France, et il y a eu un très très beau dessin de Plantu sur l'affaire des poupées de Chine, les poupées de Mattel, où le dessinateur a montré un Chinois militaire communiste de tirer une balle dans la tête des enfants et avec la bulle qui était du plomb dans nos poupées. Ah bon ? Et donc il était clairement dit sous la plume de Plantu, qui manque pas d'un certain talent, que le gouvernement communiste, que la Chine communiste qui nous inonde de ses produits était avant tout une dictature.
Et voilà pourquoi, Cécile, nous nous opposerons aux Jeux Olympiques à Pékin, comme nous nous étions jadis opposés aux Jeux Olympiques à Moscou, parce que ça sera l'occasion pour nous de rappeler que la Chine, c'est le pays du Laogai, le goulag de la chinoise, que c'est le pays où l'on extermine le Tibet, dans l'indifférence générale, car les droits de l'homme sont à géométrie variable.
Donc vous nous dites, Bernard Anthony, qu'il va y avoir un comité de boycott des Jeux Olympiques.
Bien sûr. Je pense que ça fera l'objet de la prochaine émission ici même.
Oui, nous constituons actuellement avec Bernard Anthony un dossier à charge contre la Chine communiste. Et hélas, il ne manque pas de pièces à ce dossier. Sur la base de ce dossier, nous donnerons les raisons du boycott des Jeux Olympiques à Pékin en 2012.
Merci Cécile. Je voudrais, car l'heure avance, que nous redisions bien nos rendez-vous, car ils sont importants. Voulez-vous, Jeanne, qui allez prendre la parole d'ailleurs dimanche à Villepreux, c'est même vous qui allez faire le discours final, et j'en suis très très heureux, parce que vous êtes une très bonne vice-présidente de la DRIF. Pourriez-vous peut-être redire les lieux de rendez-vous et quelques détails?
Alors, je serais en effet très très honorée de m'adresser aux militants, mais aussi aux amis de la DRIF et à ceux qui veulent découvrir ce mouvement. Alors, je rappelle l'orthographe, c'est AGRIF. Un auditeur de Radio Courtoisie nous demandait de le préciser. Alliance Générale contre le Racisme et pour la défense de l'identité.
Et pour le respect.
Pour le respect, pardon, de l'identité française et chrétienne. Alors, la convention de la GRIF en Ile-de-France se tiendra le dimanche 23 septembre à Grand Maison à Villepreux. C'est un lieu merveilleux qui est prêté par quelqu'un qui mérite d'être salué, je crois. Le propriétaire de Grand Maison devrait recevoir notre clientèle lorsque, en tant qu'entreprise, nous pouvons payer ce magnifique lieu de réunion. Eh bien, cela s'ouvre à 10h le dimanche 23 septembre à Grand Maison à Villepreux. À 10h30, la messe sera célébrée selon le rite traditionnel, en latin et avec du chant grégorien. Et ensuite, la journée se déroulera avec possibilité de déjeuner sur place, 15 € le déjeuner, plus 5 € d'entrée si vous ne déjeunez pas. Et on peut s'inscrire.
Alors pour le déjeuner, il faut s'inscrire impérativement. Hein, autrement, on ne pourra pas. Seuls les gens inscrits pourront déjeuner. Donc alors, il faut ou passer demain à la DRIF.
70 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, ou bien
téléphoner. Pour le moins nous téléphoner.
Et par ailleurs, je voudrais juste
au 01 40 51 74 07.
Je répète ce numéro, 01 40 51 74 07. Vous pouvez aussi essayer le numéro suivant, qui est le numéro direct de la GRIF, 01 40 46 96 31, et vous trouverez tous les renseignements sur le site de la GRIF, www.agrif.fr.
Frédéric Pichon, notre rassemblement
vendredi prochain, donc vendredi 21 septembre à 19h30, place Charles de Gaulle Étoile, pour protester pour la liberté d'expression et contre l'islamisation en Europe. Donc vendredi 21 septembre, 19h30, RERA, sortie avenue Carnot.
Jeanne.
Oui, alors je reprends la parole pour dire que Présent actuellement a gravement besoin d'abonnés pour continuer d'exister. Alors soit sur Internet, ça ne coûte pas très cher pour l'instant du moins. Vous pouvez prendre connaissance de tout cela sur www.présent.fr, donc www.present.fr. Vous pouvez également téléphoner à la rédaction au 01 42 97 51 30, car nous proposons des abonnements de 6 mois à demi-tarif. Ils sont proposés en nombre limité, il faut se dépêcher. C'est 84 € au lieu de 168 pour 6 mois, c'est intéressant.
Et l'on pourra naturellement prendre ces abonnements dimanche à la journée de Villepreux.
Bien entendu, et nous serons très heureux de rencontrer nos lecteurs et puis ceux qui le deviendront.
Alors, petite info pour terminer cette émission sur une touche d'humour, Bernard. On a appris que le Grand Orient de France allait débattre de la mixité. Et ils vont soumettre au vote l'ouverture des quelques 1200 loges aux femmes. Et alors, il y a eu un commentaire d'un franc-maçon qui dit que finalement, le Grand Orient n'est pas prêt à cette ouverture. Un commentaire, Bernard Anthony ?
Eh bien, un commentaire ironique, parce que le Grand Orient, qui distille toutes les vilainies contre l'Église catholique en général, qui se mêle même du célibat des prêtres, nous remarquons bien combien il est timide, hein, donc pour s'ouvrir aux femmes. Mais je dois dire d'ailleurs, ce Grand Orient aussi, qui a été très immigrationniste, qui est pour l'intégration de l'islam, continue de revêtirent ses frères avaient des tabliers de peau de cochon. Or, je puis vous informer qu'il y a une grave crise au Grand Orient en ce moment, très grave crise, parce qu'un certain nombre de frères de musulmans voudraient être initiés, mais ils refusent absolument le tablier de peau de cochon.
Frères musulmans, Bernard.
Voilà, ce sont des frères musulmans, alors donc il semblerait qu'on s'oriente au Grand Orient, mais c'est un grave débat entre les traditionnalistes de la laïque qui mangeaient du lard le vendredi, ça, ce sont des vrais conservateurs, ceux-là, donc, et ceux qui voudraient ne plus manger du lard, mais donc déguster peut-être des rats à l'okoum pour ne pas offenser qui que ce soit. Voilà. Alors, chers amis, eh bien, on nous fait signe du studio. Franck, qui, admirablement, avec beaucoup de patience, toujours raide encore derrière la vitre du studio, nos débats nous fait signe. Pour conclure, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que vous nous aidiez toujours plus nombreux, parce que voyez-vous, vous l'avez bien senti, nous sommes dans une phase très difficile de l'histoire de notre pays. Il y a de lourdes menaces devant nous. Ce sont les menaces d'occupation intérieure, plus que jamais. Ce sont les menaces donc, de guerre extérieure. Nous n'avons pas commenté cela, parce que nous y reviendrons lors d'une prochaine émission. Alors, vraiment, vraiment, venez, renforcez-nous, adhérez, donc venez dans nos manifestations, nous vous attendons vendredi, nous vous attendons dimanche, c'est le travail, nous, que nous faisons, de ce travail, nous vous rendons compte, nous comptons sur vous, à la prochaine émission, et que Dieu vous garde.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur l'Oubouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle notre rendez-vous de 21h30 tout à l'heure, le libre journal de la nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau, et à 23h, une heure de musique classique. Ce soir, musique à la cour de Ferdinand II, des œuvres interprétées par Jordi Savall, une soirée, fin de soirée proposée par Sandrine. Tout de suite, la seconde partie du libre journal de Serge de Beckett. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, présenté aujourd'hui en seconde partie par Daniel Amiche, qui est assisté de Victoria. Cette émission est diffusée en direct mercredi 19 septembre 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Eh bien, bonsoir aux amis auditeurs qui nous font l'amitié de nous rejoindre pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge de Becquet du 19 septembre. C'est Daniel Amiche au micro, avec l'assistance de Victoria. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Daniel.
Parce qu'il faut dire bonsoir aux auditeurs, c'est pas
mais
une éternelle.
Mais j'attendais d'avoir un petit coup.
Je sais que vous n'avez Dieu que pour Henri de Lesquin qui me fait l'amitié d'assister à cette émission, mais enfin tout de même, il y a des limites.
Si c'était vrai. Ce sont des yeux méchants qu'elle pose sur moi.
Non, pas du tout.
Il y a des limites quand même, hein. Bon. Alors voilà. Alors ce soir, Henri de Lesquin nous fait l'amitié de venir dans cette émission, parce que j'ai pensé que le sujet que nous allions traiter ce soir et la qualité de l'invité justifiait sa présence, qui va nous renvoyer chez Henri à quelques semaines de distance, quand vous-même avez eu l'amitié de m'inviter pour une autre émission qui tournait un petit peu autour du thème que nous allons aborder ce soir, un peu différemment, avec un axe très différent, mais quand même qui avait quelque chose à voir avec le livre de Rodney Stark dont nous avions parlé il y a quelques semaines. Alors l'invité de ce soir, c'est une personne que je connais depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup, c'est Claude Fouquet. Bonsoir Claude Fouquet.
Bonsoir Daniel.
Voilà, vous êtes ambassadeur, ancien ambassadeur de France, vous êtes docteur en sciences économiques, vous êtes énarque, ce qui vous donne encore un point commun avec Henri
Ancien élève de l'ENA, je proteste contre le mot énarque, c'est le barbarisme.
C'est moi le patron, donc vous êtes énarque. Alors, vous avez enseigné aux États-Unis.
Oui.
Vous avez enseigné aux États-Unis, vous êtes économiste et écrit un certain nombre d'ouvrages fort intéressants et surtout vous êtes un ami très fidèle. Alors c'est aussi à ce titre que j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir. Ça ne gâte rien. Et peut-être aurais-je dû commencer par cela même. Vous venez nous voir ce soir pour un nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan. Et qui s'appelle « Histoire critique de la modernité ». Alors j'avoue, je vous le dis franchement, quand vous m'avez parlé de ce livre au téléphone et que je l'ai reçu, j'ai eu un premier mouvement, je ne dirais pas de recul, mais de stupeur et d'interrogation. Et puis en commençant à lire ce livre, je me suis aperçu que ma stupeur, mon interrogation, voire ma crainte, était assez peu fondée. Parce que moi j'étais resté sur l'idée... d'un concept de la modernité qui est, disons, dans son acception la plus actuelle, qui est justement cette rupture avec un certain nombre de principes qui sont des principes fondateurs. C'est une espèce d'autonomie que prend l'homme, une autonomie dont on pourrait faire remonter l'origine au grand mouvement de la Renaissance, de la Réforme, de la Révolution, des Lumières, enfin toutes ces choses-là. Et il se trouve que vous m'avez pris et vous prenez votre lecteur un peu à contre-pied, parce que l'idée de modernité que vous défendez n'est pas du tout celle-là. Elle est même l'exact opposé. Alors, est-ce que vous pourriez déjà, Claude Fouquet, avoir la gentillesse de nous définir en quelques instants ce que vous entendez par modernité ?
Oui, c'est relativement facile. Alors, je terminerai par la définition. Je dirais que c'est un livre d'histoire que j'ai écrit. Un livre d'histoire, mais pas un livre d'histoire limité sur une courte période. Vous savez, les historiens sont soit 17e-istes, 18e-istes, etc. Moi, j'étais plutôt spécialiste du monde antique, puisque j'ai été l'élève de Pierre Grimal et de Pierre Chenu aussi. Pierre Chenu, c'était plutôt la Renaissance. Mais là, je suis retourné très loin en arrière, disons à l'origine de l'histoire, quoi, au début de la préhistoire, à l'origine de l'histoire. Donc c'est un livre historique. Mais c'est aussi un livre d'actualité. Cet après-midi, j'écoutais notre président, qui n'arrêtait pas de parler de moderniser. Et je dois dire, ça me plaît assez. Ça me plaît assez, je pense que la France a besoin de modernité, de se moderniser. Ça nous change du président Chirac, pour qui j'avais voté aussi, malheureusement, et qui, lui, ne pensait qu'à nous mobiliser. Je me souviens, son mot, c'était pas du tout moderniser, c'était nous mobiliser. Alors, mobiliser, c'est l'idée de marcher au pas, n'est-ce pas ? Je ne veux voir qu'une seule tête, c'est l'idée de pensée unique aussi, n'est-ce pas ? Une seule tête. Bon, alors la modernité, c'est tout le contraire. C'est la liberté. C'est la liberté de croire, de ne pas croire, Et c'est quelque chose où il y a eu un avant et un après. La modernité, selon moi, mais je ne suis pas le seul, vous parliez de Rodney Stark, un certain nombre d'historiens de l'Antiquité, disent que la modernité, elle est apparue à un seul endroit du monde et à un seul moment, à la fin de l'Empire romain, avec la religion chrétienne.
Au moment où la religion chrétienne s'installe.
Le rôle de la religion chrétienne.
Vous avez même une phrase qui est quand même. Vous dites que pour vous, la modernité, c'est ce qui ne dévie pas de la ligne droite de la révélation judéo-chrétienne.
Exactement.
Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on pensait que justement, ce qui était d'après les modernes, d'après les penseurs modernes, ceux de la Réforme, ceux de la Renaissance, ceux des Lumières, ceux de la Révolution française, la véritable modernité, c'était de renouer avec l'Antiquité, de renouer avec les vertus antiques. Qui s'opposait, selon eux, évidemment, à l'obscurantisme judéo-chrétien.
Vous l'avez dit, Daniel. Ces gens-là rêvaient de revenir en arrière. Ils ont refusé la modernité. La première semence de la modernité se trouve dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez les grandes épopées antiques, Gilgamesh, la première qu'on ait, c'est Gilgamesh. Ensuite, c'est Kéret, et puis ensuite, c'est l'Iliade, l'Odyssée, etc. Eh bien, quand vous regardez ça, vous avez affaire à des gens qui ne parlent que de violence. Il s'agit non pas de créer des richesses, mais de s'en emparer par la force. Et puis, apparaît, quelque part autour de peut-être l'an 1000, avant Jésus-Christ, apparaît dans la Bible, des Juifs, dans l'Ancien Testament, de ce que les Juifs appellent la Torah, apparaît une idée tout à fait différente, que la richesse, faut pas la prendre aux autres. Tu ne convoiteras pas la femme, etc. Bon, alors souvent c'est mal traduit. Moi, j'aime répéter que moi, je peux pas m'empêcher de convoiter la femme de mon voisin. Mais ça veut dire tu ne t'en empareras pas par la force. Et si on suit la suite du texte, c'est tu ne t'empareras pas de la femme de ton voisin, ni de son domestique, ni de sa domestique, ni de son âne. Animal. Alors là, il n'est plus question de convoiter dans le sens, enfin, je pense, pour les gens qui ne sont pas zoophiles, n'est-ce pas? Donc voilà quelque chose d'entièrement nouveau. On ne doit pas s'emparer par la force des biens des autres. Et je dirais même qu'on doit protéger celui qui travaille, le glaneur. Pour la première fois, on parle du travail. Bien sûr, personne aujourd'hui ne lit l'Iliade et l'Odyssée. Mais au moins, on va au cinéma. Et je suis sûr que certains de nos auditeurs sont allés voir la guerre de Troie. Et là, dans la guerre de Troie, telle qu'elle a été, on voit Achille, on voit un certain nombre de gens rutilants. Mais personne ne s'interroge sur qui les nourrit, quels sont les forgerons qui s'occupent de fabriquer leurs armes. Quels sont ceux qui élèvent leurs chevaux, etc. Le travail n'est pas du tout honoré. Alors pour la première fois, les Juifs ont honoré le travail. Et Dieu a donné l'exemple, puisqu'il a travaillé 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Donc Dieu lui-même a travaillé, d'où la noblesse du travail. Je crois que c'est la première fois. Ensuite, ça a mis longtemps à s'imposer. Et ça s'est imposé après l'Empire romain. Alors pour répondre à votre question, nos gens de la Renaissance, ben je crois qu'ils se sont illusionnés sur ce qu'était l'Antiquité et l'Empire romain. Pourquoi ? Parce que l'histoire de cet empire a été écrite par des flatteurs. Supposez les gens qui veulent se faire nommer par Sarkozy ministre, ils vont dire le régime actuel est merveilleux. Bon, et ensuite des historiens dans 1000 ans diront la présidence Sarkozy était merveilleuse. Bon, mais en réalité, dans les 50 dernières années, on a fait des progrès énormes. L'archéologie a fait des progrès énormes et nous a permis de déterminer que l'Empire romain était une période épouvantable où l'Europe a perdu la moitié de sa population. Voilà.
Ça, c'est une chose énorme. Alors, vous citez René Girard, pour aller dans le prolongement de ce que vous êtes en train d'exposer, qui qui a déclaré quelque part que la modernité ne vient pas d'Athènes, mais de Jérusalem. Alors, ça conforte ce que vous pensez, mais est-ce que vous pourriez développer un peu ce thème? Parce que c'est assez curieux, je veux dire, on est, la pensée, ce que nous appelons, nous, en termes habituels, ordinaires, la pensée moderne est à l'absolu opposé de cela. Parce que pour eux, évidemment, pour les philosophes du 18e, par exemple, les philosophes dits des Lumières, évidemment, l'hébraïsme, c'est l'obscurité, alors qu'Athènes, c'est la clarté. Encore que là, il y aurait peut-être, cette citation est quand même extraite d'un contexte qu'il faudrait bien préciser, on viendra à rediscuter de la raison, puisque pour certains, justement, le principe même de la modernité, c'est l'homme qui, par l'exercice de sa raison, s'affranchit de tout ce qui n'est pas sa raison.
Pas absolument, non, parce que il y a un équilibre entre la raison et la révolution. Et la révélation, pardon. Et cet équilibre doit s'exprimer parce que la raison peut aussi engendrer une dictature. On l'a vu avec les grands totalitarismes. Les grands totalitarismes se réclamaient de la raison, niaient Dieu. Et Dieu, dans une certaine mesure, était un garde-fou. Il y a eu aussi des dérives, bien sûr, il continue d'y en avoir dans l'islamisme. L'islamisme est une dérive, mais il y a eu aussi des dérives chrétiennes dont je fais état. Les chrétiens n'ont pas. Les chrétiens n'ont pas le monopole de la modernité. Simplement, ils l'ont eu à une certaine époque. C'est l'Europe chrétienne, l'Europe latine essentiellement, pas l'Europe orthodoxe. L'Europe latine a inventé la modernité. Alors, si vous voulez, je vous dirai quand, mais...
On va en... Mais Henri de Lesquin, alors, c'est ce concept de modernité pris à rebours de la conception généralement, ordinairement acceptée.
Je dirais que la modernité, c'est l'Occident. Je n'aime pas beaucoup le vocable de modernité, mais j'aime beaucoup ce qu'en dit Claude Fouquet. Et ce qui est passionnant dans son livre, c'est justement la réévaluation du Moyen-Âge et la manière très démonstrative dont il nous explique qu'on a surestimé l'Antiquité, surestimé le monde gréco-romain, et qu'on a oublié tout ce qui s'était fait dans ces âges dits sombres. Rodney Stark, effectivement, dans son livre Le Triomphe de la Raison, le dit aussi, mais je trouve que Claude Fouquet est plus éloquent. Il est vraiment très éloquent sur le sujet.
Il connaît mieux l'histoire de France que notre cher Rodney Stark.
Je ne sais pas, enfin, il faut le lire avec passion, parce que ce qu'il dit est vraiment très intéressant. Alors, il faut le dire, et je ne fais que répéter ce qu'a écrit Claude Fouquet dans son ouvrage, que dès la fin de l'Empire romain d'Occident, 76. Eh bien, dès le début conventionnel du haut Moyen-Âge, en fait, cette période dite sombre est une période de grand développement technique. Alors, je crois qu'il faut donner des exemples très, très précis. Vous rappelez, page 40, les innovations techniques très importantes qui ont été faites.
Il faut en parler.
Alors, l'une de ces innovations, c'est la charrue, c'est le socle de la charrue. Et Claude Fouquet montre que la population qui avait décru sous l'Empire romain, en Occident, se met à augmenter à la fin de l'Empire romain. Et la démographie n'est pas tout, mais quand même, le paramètre de la population n'est pas le moindre, Claude Fouquet. Hein. Vous êtes, je pense, bien d'accord avec ça. Vous l'écrivez d'ailleurs, vous êtes d'accord avec vous-même. Mais je pense que c'est un paramètre fondamental. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je le lis, en matière d'attelage, c'est page 40 de son ouvrage. Le collier de cou antique, ne reposant sur aucune partie du squelette, comprime la gorge et étouffe le cheval, dont on ne peut pas utiliser toute la force. Le nouveau collier d'épaule, qui prend appui sur la base osseuse des omoplates du cheval, permet des tractions beaucoup plus fortes. On peut alors utiliser la charrue, plus lourde que l'arrière romain, qui ne faisait que tracer un sillon superficiel, alors que le socle de la charrue s'enfonce profondément et rejette la terre sur un côté. Mieux aéré par le labour de la charrue, la terre devient plus fertile et les rendements agricoles augmentent, etc., etc. Autrement dit, la stagnation technique de l'Empire romain s'arrête avec la fin de l'Empire romain et commence de manière obscure. Bon, ce sont des petites choses matérielles dont les écrivains ne parlent pas beaucoup, mais tout ce développement technique et économique extraordinaire qui a permis aux gens ordinaires de manger à leur faim, d'être beaucoup plus nombreux à manger à leur faim, de commencer à pouvoir faire nourrir leurs enfants.
Et de connaître pour l'Occident la première explosion démographique du Moyen-Âge.
Autrement dit, les écrivains romains, qui étaient de grands écrivains, en tout cas ceux qui nous sont restés souvent, Eh bien, ce sont effectivement des écrivains de cour qui racontent la vie d'une minuscule élite que Rodney Stark décrit de manière peut-être plus brutale que vous, Claude Fouquet, comme une population prédatrice et non pas comme une comme une élite qui vraiment agit pour le développement du pays, pour le développement de l'empire. Alors maintenant, après ce point d'accord, si Claude Fouquet me permet, je vais me permettre de susciter quelques discussions. Je ne crois pas du tout que la modernité ou que l'Occident puisse être rattaché à l'Ancien Testament. Je crois que l'Évangile a libéré les Juifs, enfin ceux qui ont bien voulu suivre le Christ, et tous les hommes des chaînes de l'Ancien Testament. Et je vais d'ailleurs en apporter immédiatement une preuve, enfin c'est une preuve, un indice. Je reprends le 10e commandement de Dieu, que par pudeur on ne cite jamais exactement, même Claude Fouquet l'a cité un peu, mais il a un peu tronqué. Le décalogue, les 10 commandements de Dieu, figure en deux endroits, vous le savez, mieux que moi, enfin aussi bien que moi en tout cas, dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome et dans l'Exode, pratiquement le même texte. Et quel est le 10e commandement de Dieu? Je vais vous le citer exactement, entre guillemets. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son esclave mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » C'est-à-dire que le rédacteur du décalogue considérait la femme comme un bien meuble, au même titre que le cheval, que le bœuf, que l'âne, etc. Bon. Autrement dit, ce n'est pas la modernité, ça. Considérer les femmes comme des choses.
Eh bien, si.
Des biens meubles.
Henri, je ne suis pas d'accord avec vous.
Vous considérez les femmes comme des biens meubles, pas moi.
Bien sûr que non.
Ah.
Mais il faut comprendre que la révélation, ce qu'on appelle la révélation chez les chrétiens, c'est une chose sur la longue durée, qui ne s'opère pas par des ruptures, mais par un long développement, une longue pédagogie de Dieu vis-à-vis de l'espèce humaine. Ce que vous dites du 10e commandement peut choquer des oreilles d'aujourd'hui. Évidemment, une femme n'est pas un bien meuble. Mais c'est un progrès énorme par rapport à l'ensemble de l'environnement de l'Antiquité de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a dans la pensée hébraïque, dans ce qui est révélé par les prophètes, notamment de ce que Dieu pense, il y a une lente progression. Bon, aujourd'hui, on reste assez pantois quand on voit que les musulmans qui sont pieux, dont il n'est pas question de remettre en question la foi et le respect qu'ils ont vis-à-vis de ce qu'ils appellent Dieu. On est quand même très choqué de voir au moment de l'Aït el-Kébir ces dizaines, ces centaines de millions égorgés. C'est quelque chose d'absolument qui n'a pas de sens.
Mais les Juifs de l'Ancien Testament faisaient exactement la même
mais
chose.
Mais pourquoi l'ont-ils fait,
hein? Abraham.
Mais c'est un progrès. Le sacrifice des animaux est un progrès par rapport au sacrifice des enfants. C'est ça le grand message
de l'Ancien Testament. Vous me faites penser aux musulmans qui vous disent « Ah, mais les 4 femmes, c'est un progrès par rapport aux païens qui en avaient 10 ou 12 ou 1000. »
Henri, écoutez-moi. Je dis le sacrifice des animaux est un progrès par rapport au sacrifice des enfants. Et c'est vraiment tout ce qu'on tire de la... Ce n'est pas une parabole d'ailleurs, mais enfin de l'affaire d'Abraham et d'Isaac. Qui lui-même d'ailleurs le sacrifice, qui préfigure un autre sacrifice, qui va venir abolir tous les sacrifices d'animaux, qui est le sacrifice du Christ, qui une fois pour toutes se sacrifie pour le péché de l'humanité. Donc c'est un progrès. On est dans une perspective de progrès de l'intelligence et d'ouverture progressive des cœurs. Voilà en quoi la pensée de l'Ancien Testament ne peut pas être, sauf être martionniste, que je ne suis pas,
martionniste,
ni vous non plus mon cher Henri, on ne peut pas les séparer. Ils sont dans une continuité.
Attendez, alors si je peux, avec votre permission, expliquer sommairement.
Mais c'est vous l'invité de ce soir.
Non mais
c'est bien.
Je crois que Claude Fouquet, l'un des ingrédients majeurs de cette modernité, de cet Occident moderne, c'est la liberté individuelle. Voilà. Vous êtes bien d'accord, Claude Fouquet? La liberté individuelle. D'où vient cette liberté individuelle? Elle ne vient pas, je le reconnais, et c'est d'ailleurs établi au moins depuis Benjamin Constant ou depuis Fustel de Coulanges, elle ne vient pas de l'Antiquité gréco-romaine, car le mot libertas, ça désignait autre chose, c'était la liberté participation, c'était le droit de voter, de participer aux décisions collectives. Alors c'est très important, mais ça n'est pas la liberté individuelle, et ça n'est certainement pas suffisant. Une démocratie peut être totalitaire si la majorité écrase la minorité. Bien. Donc elle ne vient pas de là. D'où vient-elle cette liberté individuelle? Elle vient de deux origines et de deux seulement. Premièrement, de l'Évangile, pas de l'Ancien Testament, de l'Évangile. et en fait de l'Évangile qui nous apporte la doctrine de l'incarnation. C'est le dogme chrétien de l'incarnation qui permet de voir en tout homme une sorte qui est à la ressemblance du Christ, même si c'est une ressemblance un peu lointaine. Nous, pauvres pécheurs, nous lui ressemblons de très loin. Mais nous avons en nous une part de divin. Puisque un homme a pu être Dieu en même temps que c'était Jésus. Et c'est le modèle, l'imitation de Jésus-Christ, c'est le modèle. Bon. Évidemment, quand on dit que Dieu a pu se faire homme, on donne à l'homme une dignité qu'il n'avait dans aucune autre religion concevable. Mais ça ne suffit pas, politiquement. Le droit antique, donc je ne connaissais pas la notion de liberté, au sens individuel du terme, au sens de l'anglais right, excusez-moi de parler anglais, je mettrai un euro en sortant, au sens du droit individuel. Parce que en anglais, vous avez l'opposition entre law et right, contraduit par le même mot français du droit. Mais en termes techniques, c'est le right, c'est le droit subjectif, par opposition au droit objectif ou à la loi. Cette notion de right, elle vient des Germains et peut-être des Celtes, pas des Romains ni des Grecs. Et ce sont les Germains, et ce n'est pas du tout l'Ancien Testament, ce sont les Germains christianisés qui ont créé la liberté. D'ailleurs, vous parlez, Claude Fouquet, de la Grande Charte. Mais moi, je voudrais rappeler un autre exemple extrêmement frappant de cette affaire. C'est le premier monument littéraire de la langue française, qui est la chanson de Roland. Alors, il faut la lire jusqu'au bout. Il faut lire à la fin le procès de Ganelon. Et c'est extraordinaire, le procès de Ganelon. Vous l'avez lu, le procès de Ganelon?
Ah non.
Et c'est la fin, mais il faut aller là.
Il faut aller jusqu'au bout.
Mais c'est là que vous comprenez ce que c'est que la liberté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ganelon est un traître. Un félon. D'ailleurs, c'est devenu un nom commun à Ganelon. Enfin, je pourrais citer quelques autres. On pourrait maintenant trouver d'autres noms presque équivalents à la chaîne de Radio Courtoisie. Mais bon, restons-en à la France et à sa grande histoire. Donc Ganelon. Ganelon est un traître. Donc, il est saisi par les hommes de Charlemagne. On va se dire, dans un état moderne, on est en temps de guerre, on le met devant un peloton devant le peloton d'exécution, terminé, liquidé. Il a trahi. Et pas du tout. Car c'est un homme libre, c'est même un noble de haut rang. Donc il doit être jugé par ses pairs. Il doit être jugé par ses pairs, et donc le jugement a lieu. Donc pour le jugement, Charlemagne n'a pas le pouvoir, aussi puissant soit-il, de le tuer de sa propre décision. Il doit faire un procès pour qu'il soit condamné à mort et exécuté. Le procès a lieu. Mais à l'époque, c'était la procédure accusatoire qui existait, seulement la procédure accusatoire. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un se lève pour porter accusation et dire « Moi, j'accuse Ganelon d'être un traître ». Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était le jugement de Dieu. C'est-à-dire que l'accusateur devait se battre avec le champion de l'accusé, et c'était le vainqueur qui était censé avoir la vérité. Alors, il se trouve que Ganelon est défendu par Ganibel. Ganibel est un géant de 2 mètres de haut.
C'est bien comme avocat.
Baraqué, et donc il dit, moi je dis que... Alors, il explique d'ailleurs, il y a une argumentation juridique. Ganelon, on dit que Ganelon a trahi, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Ganelon? Il s'est vengé de Roland. Donc, il a réglé ses comptes avec Roland, et on a le droit à la vengeance personnelle à l'époque. Il s'est vengé de Roland. Et pourquoi avait-il le droit de se venger de Roland? Parce que Roland l'avait désigné pour une ambassade auprès du roi Sarrasin, qui l'envoyait presque certainement à la mort. Donc finalement, il avait le droit de se venger. Alors juridiquement, ça se plaidait, et surtout, il avait un champion qui s'appelait Ganibel, qui faisait 2 mètres de haut, qui était une baraque, et du coup, personne ne veut prendre la défense du roi et de la mémoire de Roland. Sauf Thierry qui se lève, finalement, l'histoire se termine bien, puisque Thierry tue Ganibel, et finalement on peut oxyre Ganelon, mais vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que, même si bien sûr la chanson de Roland est écrite au XIe siècle, il y a, dans le Moyen-Âge, une tradition de liberté qui vient des Germains. C'est de là que vient la liberté individuelle, pas de l'Ancien, certainement pas de l'Ancien Testament qui ne la connaît pas de l'Antiquité grecque et romaine qui ne la connaît pas du droit romain qui connaît les droits mais pas les droits individuels, et pas du christianisme lui-même qui est une religion qui n'est pas un système juridique, mais de la combinaison justement des traditions germaniques et un peu des traditions celtiques, éclairées, inspirées, sublimées par la perspective chrétienne de l'incarnation.
Bon, alors ça, c'est une thèse qui est très intéressante, je dois dire, et qui mérite d'être discutée. Ceci dit, l'Antiquité, enfin, on va donner la parole aussi à Claude Fouquet, mais parce que c'est important, on tourne autour de ce thème qui est vraiment fondamental. Parce que la modernité, encore une fois, nous est présentée comme étant l'usage de la raison, La modernité, c'est la raison. La raison libre, la raison libre. Bon. Mais nous savons que, Henri de Lesquin le disait tout à l'heure, que la raison livrée à elle-même aboutit à quelque chose d'extrêmement mauvais pour l'homme qui s'appelle le rationalisme. Bon. Et cette raison libérée de toute contrainte morale devient elle-même, en quelque sorte, la pourvoyeuse d'Auschwitz et des goulags. Il faut le dire comme il faut le dire. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à un autre débat qu'on a eu ici sur Radio Courtoisie à plusieurs reprises avec d'autres invités. C'est le christianisme et la raison. C'est le grand thème qu'Henri de Lesquin a déjà suffisamment traité et d'autres...
Jamais suffisamment, parce que c'est tellement vaste comme ça.
C'est le grand discours de Ratisbonne. C'est la leçon de Ratisbonne qu'a donné au monde Benoît XVI. Et là, qu'ils l'ont pas bien compris, d'autres qui l'ont compris, tant mieux, tant pis pour ceux qui l'ont pas compris, mais pour revenir en seconde semaine, de toute manière, c'est pas très grave. Parce que, et ça nous conduit à nous interroger sur ce qu'on appelle aujourd'hui dans ce qu'on appelle la théologie de la libération, la théologie des religions chez les théologiens catholiques, et sur le recentrage que le discours du pape Ratisbonne, ce recentrage qu'il fait de ce dialogue interreligieux. À savoir, ce que dit le pape, c'est que le christianisme a recherché, non pas dans les religions de l'Antiquité, mais dans les philosophies de l'Antiquité, et notamment éminemment dans la philosophie grecque, ce que les pères de l'Église ont appelé les semences du Verbe, les préparations évangéliques. Ça, c'est une chose très intéressante. C'est-à-dire que c'est cet ensemencement réciproque de la foi et de la raison. Et cette raison, dès lors qu'elle s'affranchit de la spiritualité, qu'elle devient à soi-même son propre objet et sa propre fin, eh bien, elle fait errer l'homme. L'homme se perd. Donc voilà, c'est un sujet. Alors je vais avoir vos sentiments là-dessus et voir en quoi ce concept de modernité a quelque chose à voir aussi avec la raison, telle que l'Occident, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux dans la philosophie grecque, puis la pensée chrétienne, la doctrine chrétienne, la théologie chrétienne en a fait.
Excusez-moi, mon cher Daniel, je ne suis pas théologien. Je suis historien.
Moi non plus, mais...
J'ai été élève à Chicago de Léo Strauss. Et Léo Strauss avait un enseignement exotérique. Et j'ai pu l'écouter un petit peu. Je dois dire, je comprenais pas grand-chose. Comme en général la philosophie. Je veux dire que la théologie et la philosophie, je n'y comprends pas grand-chose. Je comprends un peu mieux l'histoire et encore. Donc je ne prends pas vraiment position. Mais ce que je dis, c'est que Léo Strauss disait, il y a la raison, il y a la révélation. Et c'est de là que vient la liberté. D'où, à mes yeux aussi, la modernité, parce que la modernité, c'est la liberté. Quand on est sous l'empire de la raison, on vous dit, la raison vous dit que Staline a raison. Donc, puisque Staline a raison, ce que Staline a décidé est bien. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec Staline, on vous tue. Ou on vous envoie en camp de concentration. Alors ça, c'est l'extrême de la raison. Et puis, il y a aussi l'extrême de la religion, qui est, si vous ne croyez pas comme moi, je prends une fatwa et je vous tue. Et je crois que c'est une forme de totalitarisme. Nous sommes entrés avec le fondamentalisme islamique dans une troisième forme de totalitarisme. Monsieur Henri de Lesquin a écrit un livre sur le socialisme et le fascisme, dans lequel je crois que le titre c'est « Socialisme et fascisme, une même famille ». Point d'interrogation. Moi, je retire le point d'interrogation.
Le livre retire le point d'interrogation.
Bien sûr, le livre retire le point d'interrogation. C'est le titre. Donc, nous savons que le totalitarisme, c'est le contraire de la modernité. Que l'on s'appuie sur la raison ou sur la religion, on peut très bien se tromper. Mais si on s'appuie sur les deux, peut-être s'il y a un équilibre entre les deux, je crois que, et c'est je crois, une thèse centrale de mon livre, c'est la pluralité des pouvoirs. C'est ce qui est apparu, disons en gros, après l'an 1000, un peu après l'an 1000. Je raconte un peu une scène de la bataille de Hastings, vous savez. Hastings, il n'y avait pas grand monde, hein, c'est quelque chose qui a changé...
1066, non, c'est ça,
1066, c'est quelque chose qui a changé le destin du monde, hein, faut bien le voir, ça fait basculer le destin de l'Europe et donc du monde. Et là, s'affrontait pas grand monde, hein, 8000 Saxons qui étaient sur une colline, ils étaient autour de leur roi. Et en bas, le duc Guillaume, avec 8000 Normands, Français, Bretons, Angevins, enfin, tout ce que vous voudrez. À l'époque, il y avait peu de Français. Les Français, c'était les gens de ce qu'on appelle l'île de France. Donc, c'était pas grand monde. Et le roi Guillaume a levé la main pour montrer un drapeau. Et c'était le drapeau qu'avait envoyé le pape. C'était le drapeau du pape. Et il a dit, vous voyez, le droit, Dieu est avec nous, puisque le pape m'a envoyé son drapeau. Et à ce moment-là, ces soldats ont entonné une chanson dont vous avez parlé très brillamment tout à l'heure, la chanson de Roland. On n'en connaît pas le texte, celui de 1066, on n'en connaît pas le texte, puisqu'il a écrit beaucoup plus tard, et celui qu'on a trouvé, on l'a trouvé dans une bibliothèque à Oxford en 1832, vous voyez. Et on pense qu'il a été écrit vers 1100, enfin on ne sait pas exactement, donc on ne connaît pas le texte. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que cette chanson de Roland évoquait le pouvoir impérial. Donc, le duc Guillaume montrait les deux pouvoirs qui dominaient le monde de cette époque, le pouvoir spirituel du pape qui en va envoyer et le pouvoir temporel de l'empereur,
ou des rois.
Parce que l'empereur, qui était Henri IV à cette époque-là, l'empereur, le Saint-Empereur romain germanique, appuyait Guillaume. Donc, oui, Guillaume était le représentant de deux pouvoirs. Et alors, pour la petite histoire, j'ajoute que le drapeau avait été brodé par une comtesse de Toscane qui s'appelait Mathilda. Et cette Mathilda, 11 ans plus tard, elle allait recevoir le pape ou ça dans son château de Canossa. Canossa, ça dit quelque chose à tout le monde, n'est-ce pas?
J'espère, on va préciser pour les écouteurs.
Voilà, donc...
Ce n'est pas là, une station balnéaire.
Pourquoi on parle encore de Canossa? C'est quand même que ça. Ça fait 1000 ans, hein. Et c'est quand même près de 1000 ans. Et ça veut dire quand même que ça a impressionné les gens, Canossa. Canossa, il y avait ce fameux empereur Henri IV, le même, donc, qui avait donné son accord à Guillaume, 11 ans plus tôt. Qu'est-ce qu'il faisait devant le château de Canossa de Mathilda, où était enfermée Mathilda avec le pape? Je ne sais pas ce qu'elle fricotait avec le pape, mais là, moi, comme je vous dis, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas très pieux non plus toujours, je suis un pêcheur, hein, je dois le dire tout de suite. Je suis catholique,
le seul.
Je suis catholique, mais je suis un pêcheur. Et je suis très tenté par les péchés de la chair, etc. Je le dis en confesse, d'ailleurs.
Non, mais attendez, c'est bon, on n'est pas chez ma chambérine, là, donc
Mathilda était là, à l'intérieur, et l'empereur était les pieds dans la neige pendant 3 jours. On raconte ça, il a dû vraiment avoir froid aux pieds. Et ça montrait que le pouvoir spirituel, voilà un homme seul, qui était avec une femme, dans un château probablement très peu défendu. C'était pas des troupes qui défendaient, c'était une idée. Et cet empereur, le Saint-Empereur romain, était là, dans la neige. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte, en Europe, qu'il y avait deux pouvoirs. Et ces deux pouvoirs, c'est quelque chose qu'il n'y a eu nulle part ailleurs. Ça n'a pas existé en Chine. Vous savez que les Chinois étaient beaucoup plus avancés que nous. Jusqu'au XVIIe siècle, on peut considérer que c'était la première puissance du monde. Ils ont inventé plein de choses. Et ils auraient dû inventer le capitalisme. J'aime pas trop le mot capitalisme, mais disons l'économie moderne. Ils auraient dû inventer l'économie moderne. Pourquoi c'est nous, Européens, qui l'avons inventé? Parce que nous avions deux pouvoirs qui préservaient des intervalles de liberté. Alors ça, c'est très important partout. Devant le pouvoir qu'on appelle temporel, c'est-à-dire les grands et petits chefs, en gros les préfets, sous-préfets, en fait tous les gens qui commandent, devant, il y avait un pouvoir spirituel. Dans la France de l'Ancien Régime, c'était très simple. Jusque dans les villages, il y avait un prêtre. Et le prêtre avait un pouvoir spirituel. Il avait un glaive spirituel qu'il pouvait brandir, par exemple, contre les gens qui venaient prélever des impôts. Et il y avait là un équilibre qui s'est établi, qui fait que l'ancienne France était un pays de grande liberté, contrairement à ce qu'on enseigne dans nos... L'ancienne... Je voudrais que Daniel me donne la possibilité tout à l'heure de rebondir là-dessus, surtout ce qu'on en, les bêtises, tous les mensonges qu'on nous enseigne, et surtout ce qu'on sait maintenant, beaucoup mieux qu'il y a une centaine d'années, parce que dans les 50 dernières années, l'archéologie a fait des progrès énormes, qui font que jusque-là, c'était les sources littéraires qui faisaient l'histoire. Maintenant, ce sont souvent les sources archéologiques. On ne sait pas encore calculer les PIB antiques, le produit national brut antique ou produit intérieur brut, mais on sait voir la population. Et quand même, les chiffres valent ce qu'ils valent, mais on peut considérer que quand la population se multiplie, c'est qu'elle est peut-être plus heureuse que quand elle diminue.
La production est meilleure, les échanges sont meilleurs.
Et elle a diminué de moitié. Et je ne parle pas de la Gaule. La Gaule après César. La Gaule, certains pensent que peut-être la Gaule a eu jusqu'à 20 millions d'habitants. Et sous les Romains, elle a diminué à moins de 10 millions, peut-être 8 millions, voilà. Ça a été atroce.
Ce sont des choses de bon sens, il suffit d'ouvrir un peu les yeux quand on se promène en France, notamment, enfin, la quantité de cathédrales, de basiliques, d'églises romanes ou gothiques montre que la richesse, la quantité de matériaux qu'il a fallu pour les construire, vous dites qu'il y a évidemment, il a fallu plus de matériaux de construction pour construire toutes les cathédrales qui sont en France et les grandes abbatiales que pour les pyramides d'Égypte. Il a fallu plus de matériaux. Et sur une période relativement courte, hein, une période d'un siècle ou deux où vraiment on voit fleurir l'art roman et puis ensuite un peu plus tard le gothique de façon absolument prodigieuse au plan de la technique déjà et de la richesse qu'il faut quand même accumuler parce qu'il n'y avait pas d'esclaves. Je ne sais pas trop comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Je ne pense pas que la construction des pyramides d'Égypte s'assimilait à aller au club méditerranéen. Je pense quand même qu'il y avait un travail qui était un peu forcé. Or, on n'est pas du tout dans ce cas-là en Occident. Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Nous sommes dans le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Daniel Amiche en seconde partie, avec assisté de Victoria, et que nous avons la joie de recevoir donc Henri de Lesquin, que je ne présente pas à nos auditeurs, qui me fait l'amitié de m'assister aussi ce soir, c'est très agréable, n'est-ce pas? Et surtout donc notre...
Après Victoria, en numéro 2.
Victoria, oui, ben, allez, honneur aux dames, mais toujours... Honneur aux dames, et notre ami donc Claude Fouquet, qui vient avec lequel nous entretenons autour de son ouvrage qui s'appelle Histoire critique de la modernité, publié aux éditions de l'Armatan. Je me tourne de Victoria pour savoir si des messages d'auditeurs seraient arrivés. Il en est arrivé.
Alors, la raison dont vous parlez, il convient de l'écrire avec un petit R, et non point un R majuscule, car cette raison-là, c'est la raison cogitative. Alors que la raison, avec un grand R, relève de la lumière, laquelle est donnée à l'homme, tandis que l'autre procède de l'homme.
Eh bien, ce soir, je dois dire que nous étions déjà sur des anapurnas de la pensée, mais là, maintenant, nous sommes sur l'Himalaya de la pensée.
Je vois que nous avons des auditeurs de très grande qualité, et je remercie cet auditeur, mais je dois dire que ça dépasse largement mes compétences.
En tout cas, c'est très vrai ce que dit l'anthéologie, c'est vrai.
Alors, un autre auditeur, vous menez une croisade contre le jacobinisme.
Oui, lequel... On n'en a pas encore parlé du jacobinisme, ça va pas tarder.
Alors, je la garde. Lequel remonterait à Philippe le Bel? Au Moyen-Âge, les seigneurs sont belliqueux, les coutumes diverses. Est-ce que ceci ne rend pas le jacobinisme nécessaire?
C'est hors sujet, là.
Non, mais c'est parce qu'il y a une confusion entre jacobinisme et forme centralisée du pouvoir, disons, forme administrée du pouvoir. En gros, l'histoire, pour moi, l'histoire de la monarchie française, c'est cette espèce de quête très longue, plus d'un millénaire, pour arriver à l'administration des choses. Bon, et c'est-à-dire, évidemment, oui, la monarchie absolue française s'est affrontée à des féodalités. Parfois, les féodalités l'ont vaincue, mais la plupart du temps, c'est la monarchie qui a fini par vaincre les féodalités. Elles sont nombreuses, elles ne sont pas seulement que aristocratiques, les féodalités.
Je dirais à notre auditeur que le jacobinisme est quand même quelque chose de très caractérisé, c'était le club des Jacobins sous la Révolution. Donc on ne peut pas parler de jacobinisme avant cette période-là. Ce dont on peut parler, c'est de centralisation, on peut parler d'absolutisme, on en a abondamment parlé et on s'est trompé. Parce que la dite centralisation qu'on a reprochée à la monarchie française, en réalité, consistait à décentraliser de manière pacifique. Ce qui était insupportable, c'était les guerres féodales. Et certes, les Capétiens ont mis fin aux guerres féodales, mais ils n'ont pas mis fin aux libertés locales. C'est pour ça d'ailleurs que la nuit du 4 août a été quelque chose de catastrophique, contrairement à ce qu'on nous enseigne, parce que ça a été la fin de toutes les libertés locales en France. Et on n'a jamais été plus libre qu'avant 1789, grâce à ces libertés locales où chacun pouvait avoir recours selon la loi du pays, comme on disait. On appelle ça encore en Angleterre le droit coutumier. Le droit coutumier. Et peut-être nous en parlerons, la Grande Charte et le... Moi, je pense à l'affaire d'Outreau, par exemple. L'affaire d'Outreau, en France, on a pris des gens qu'on a mis devant un juge unique, sans aucune liberté locale. Si on avait été en Angleterre ou aux États-Unis, on aurait réuni ce qu'on appelle un grand jury. C'est-à-dire, on aurait pris des gens... Alors, ça sort exactement de la Grande Charte, ça. Des gens, des pères, on disait des pères P-A-I-R, hein, pas des pères de famille, peut-être des pères de famille, mais aussi des célibataires. Des pères P-A-I-R, des égaux. Des égaux de la personne en question. Et on leur aurait demandé, pensez-vous qu'ils ont violé des enfants, etc. Et eux auraient décidé de savoir s'il fallait envoyer en prison ces gens qui ont passé 3 ans, 4 ans, etc. Donc ça s'appelle l'habeas corpus, tu as ton corps, tu disposes de ton corps, et si on doit te mettre en prison, ou si on doit te priver de tes biens, eh bien on doit réunir un jury, on doit réunir 12 personnes ou 8 selon les coutumes, ça peut varier, mais on ne doit pas se contenter d'un juge unique, juge d'instruction, comme vous savez, juge unique, juge inique. Voilà. Et ça a été inventé au Moyen-Âge, c'est l'invention de la liberté, l'invention, à mes yeux, de la modernité politique, c'est après Canossa. Il y a eu la Grande Charte. La Grande Charte de 1215. Alors, si vous voulez, je vous en parlerai après.
On va en parler parce qu'il y a ce concept-là. Il y a aussi le concept de propriété qui est une chose intéressante. Mais je voulais demander à Henri de Lesquin s'il souhaitait rebondir sur ce que vient de dire notre ami Claude Fouquet sur cette question de grand jury. Donc, ce modèle de justice à l'anglo-saxonne qui ne semble pas devoir pouvoir s'acclimater au modèle français à cause de quoi. Et c'est vrai que l'affaire d'Outreau est un scandale. Non pas par la légèreté de ce juge, parce qu'il peut y avoir un juge unique qui peut être très bon, mais par le fait que la justice n'a pas été rendue.
Je crois que la procédure inquisitoriale est nécessaire, mais très dangereuse. Et quand on parle des libertés individuelles, il faut toujours avoir en tête ce qui s'est passé en Europe occidentale et en Amérique du Nord, entre 1550 et 1650, c'est-à-dire la grande chasse aux sorcières. Car la grande chasse aux sorcières, le massacre de milliers et de milliers de femmes et de quelques hommes accusés faussement de sorcellerie, ne s'est pas produit pendant le prétendu Moyen-Âge, mais après. Après. Et pas seulement, et plutôt moins chez les catholiques
que chez les protestants.
Que chez les protestants. Les sorcières de Salem, bien connues, c'était en Amérique du Nord, c'était les protestants. Et ça n'a été possible qu'à cause de la procédure inquisitoriale, et ça, Norman Cohn explique très bien la chose. Alors en fait,
qui est
Norman Cohn, l'historien anglais Cohn, C-O-H-N, qui a écrit un livre qui s'appelle notamment, il a écrit notamment le livre Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen-Âge. Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen-Âge. Et un autre qui s'appelle Les fanatiques de l'Apocalypse. Bon, c'est un historien très intéressant. Et sa théorie sur comment l'Europe a-t-elle pu connaître l'Occident, qui au moment précis où les gens se prétendaient libérés de l'obscurantisme, comment avons-nous pu avoir cette grande chasse aux sorcières? C'est absolument incroyable. Incroyable. Alors, ce qui est vrai, je ne sais pas si c'est du jacobinisme, mais il y a quand même eu un précédent. C'est le procès des Templiers.
Oui.
Alors c'est 3 siècles avant, c'est au Moyen-Âge, mais c'est très particulier, c'est un seul procès, et c'est le roi Philippe le Bel qui, dans des conditions très particulières, a fait avouer n'importe quoi aux Templiers, mais il faut dire que...
Très belle opération de police quand même, il faut dire.
Voilà.
Très belle.
Alors je reviens. Alors,
Philippe, mais très belle.
Alors Norman Cohn nous dit ceci. Lorsque c'était la procédure accusatoire, si pour condamner quelqu'un pour crime de sorcellerie, il fallait qu'il soit accusé par son voisin. Mais le voisin prenait le risque, si l'accusation n'aboutissait pas, d'être condamné lui-même, avec ou sans jugement de Dieu. C'est l'accusateur qui était condamné si l'accusation ne triomphait pas. Autrement dit, au Moyen-Âge, au XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle et XIIIe siècle, il y a eu bien sûr des accusations de sorcellerie, mais très peu, parce que l'accusateur, le calomniateur, prenait des risques pour lui-même. Et puis est arrivée la procédure inquisitoriale, qui a été, du point de vue technique, c'est un fonctionnaire qui vous parle, un grand progrès, hein, nous sommes bien d'accord. Du point de vue technique, inventé par qui, cher ami?
Les Torquemada, non?
Innocent III, c'est le 12e siècle, c'est contre les albigeois. C'est contre les albigeois qu'on
Oui, mais c'est au moment de la Sainte Inquisition.
Mais attendez, il y a trois Saintes Inquisitions. Moi, je vous parle, alors, le Saint-Office de l'Inquisition, qui est une chose, et puis l'Inquisition ecclésiastique qui a été fondée par Innocent III pour lutter contre l'hérésie, qui, alors je vais peut-être choquer des âmes innocentes, mais qui à l'époque a été un progrès. Pourquoi c'était un progrès? Parce que, dans un pieux mouvement, dans un pieux élan populaire, les bons catholiques massacraient les hérétiques. Ils avaient sûrement tort. Mais ils avaient encore plus tort quand ce n'était pas des hérétiques. Parce que quand on ne fait pas... c'était les procès outreau, c'était sur une grande échelle. C'est-à-dire qu'on accusait quelqu'un d'hérésie ou de sorcellerie, mais sans procès, on le mettait comme ça sur un échafaud, et voilà, et puis le seigneur du coin, ça en profitait pour se débarrasser de manière expéditive de ses opposants, ou ses ennemis. Donc, le pape a dit, attention, il y a des hérétiques, mais tout le monde n'est pas hérétique. Il faut un procès qui permette de distinguer le bon grain de l'ivraie. C'était pas si évident. Je vous donne un exemple. Si vous avez lu le manuel de l'inquisiteur de Bernard Guy, dont je vous conseille la lecture, Bernard Guy est un personnage... un inquisiteur du 13e siècle qui a été caricaturé ignoblement dans le monde de la rose de Umberto Eco. Et alors Bernard Guy dit attention, si vous faites venir un vaudois, et pour vérifier qu'il est vaudois, vous lui demandez mais est-ce que vous croyez est-ce que vous pouvez me dire que vous croyez en la Sainte Église catholique? Et il vous dira oui. Eh mais in petto, il se dit non. Dans son fort intérieur, lui, il pense que la vraie Église catholique, c'est l'Église des Vaudoises. Donc, il faut lui demander de prêter serment. Parce que les Vaudois ne savent pas, refusent de prêter serment. Et à ce moment-là, vous aurez une bonne analyse qui vous dira qu'il n'est pas catholique, mais c'est parce qu'il ne veut pas prêter serment de foi à l'Église catholique. Donc, Vaudois. Bon. Tout ça pour vous dire que, on avait sûrement tort de persécuter les hérétiques, mais qu'on avait encore plus tort de prendre pour hérétique quelqu'un qui ne l'était pas. Donc l'Inquisition à l'époque a permis de réduire considérablement les horribles massacres qui étaient faits au XIIe, XIIIe siècle, au moment du développement des hérésies. Les vaudois, les cathares, etc.
L'accusé pouvait se défendre, c'est une grande nouveauté.
Oui, mais il pouvait se défendre. Alors d'abord, la grande différence, c'est que l'accusation était portée par le ministère public en quelque sorte. Mais c'était des procès ecclésiastiques, et... Tant que ce furent les prêtres, les hommes d'église, qui ont été les seuls détenteurs de la procédure inquisitoriale, il n'y a pas eu d'abus extraordinaire. Il y a eu un abus aux yeux de la modernité, c'est-à-dire qu'on a persécuté effectivement des hérétiques, on leur a quand même laissé la chance de ne plus l'être, mais enfin, c'était très limité, très limité. Considérable... si vous voulez, de notre point de vue, mais bien inférieur à ce qui se passait avant l'institution au XIIIe siècle, au XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, par Innocent III, de cette inquisition. Et puis, Norman Cohn explique que c'est le jour où les tribunaux civils, protestants aussi, pays protestants des pays catholiques, se sont emparés de la procédure inquisitoriale que tout a dérapé. Parce qu'à ce moment-là, on portait une accusation qui n'engageait à rien contre eux. Une bonne femme un peu, qui avait l'air un peu piquée, un peu bizarre, etc., qu'on accusait de sorcellerie. Et ensuite, la procédure inquisitoriale compliquée ou améliorée de la question, c'est-à-dire de la torture, conduisait aux aveux les plus aberrants.
Évidemment.
On a des milliers de pages d'aveux abracadabrantesques, comme dirait
qui vous savez.
Le prédécesseur du petit Nicolas. de femmes qui avouent avoir être montées sur un balai, pour participer au sabbat avec Belzébuth.
Oui, la torture fait
avouer. Alors, c'est comme ça que la procédure inquisitoriale, elle est. Alors, vous me direz maintenant, la torture n'existe plus. Mais il y a des procédés de pression morale.
Pression médiatique.
Pression qui font qu'on arrive à des résultats, non pas égaux, mais ressemblants. Semblables.
Oui, vous évoquez Innocent III. Très justement, ça a été un très grand pape. Vous savez qu'on l'appelait Verus Imperator. C'était lui le véritable empereur, parce que pendant la minorité de Frédéric II, qu'on a appelé ensuite le Grand, il en était le tuteur. Et donc, il concentrait tous les pouvoirs. Et c'est vrai qu'il a introduit certains types de procédures. Mais l'œuvre la plus durable qu'il ait faite, c'est une lettre qu'il a écrite au roi Jean. Vous savez, le roi Jean, dit Santerre, qui était le fils d'Aliénor d'Aquitaine et le frère de Richard Cœur de Lion, était menacé par les barons, parce qu'il gouvernait mal. C'était pas un bon roi. Et Innocent III lui a écrit, lui suggérant un certain nombre de réformes. Et on a la lettre dans laquelle il lui dit en particulier que tout homme libre devrait être jugé par un tribunal de ses pairs et selon la loi du pays. La loi du pays, ça ne veut pas dire une loi votée par des gens à la tête du client, ça veut dire la loi traditionnelle, la loi coutumière, la coutume. Et ça a été retranscrit dans l'article 39, l'article 39 de la Grande Charte. Et cet article 39 de la Grande Charte et a été recopié tel quel sous Charles II. Je dois préciser d'ailleurs que Charles II, roi d'Angleterre, est mort en bon catholique. On doit considérer que pendant toute sa vie, il a fait semblant d'être protestant, mais il était catholique.
Pardonnez-moi, mais là, Claude Fouquet, vous enjambez les siècles. La Grande Charte, c'est 1214.
Oui, et 1204,
autant pour moi.
1204, non, je vais vous dire, bien sûr.
Et Charles II, c'est le 17e siècle.
Mais l'habeas corpus a fait référence, c'est-à-dire que pendant toute l'histoire, et ça c'est très intéressant, pendant toute l'histoire, et encore aujourd'hui, on se réfère à l'article 39 de la Grande Charte. Et je vais même vous dire, j'ai étudié aux États-Unis la question, que certains États des États-Unis ont dans leur constitution des références à l'article 39 de la Grande Charte.
Qui est donc
tellement
inspiré d'Innocent III.
Alors, si vous voulez, l'origine de la Grande Charte, c'est une lettre d'Innocent III au roi Jean, et le roi Jean a accepté de le mettre. Là, il faut dire que les rédacteurs de la Grande Charte, c'était qui ? C'était des évêques, essentiellement des évêques. La Grande Charte, c'est un document catholique. Alors, les juristes américains n'aiment pas trop, parce que une majorité, dans les grandes universités, une majorité sont des WASP. Des blancs anglo-saxons protestants, vous savez, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Et il aime pas trop dire que tout ça, c'est catholique, parce que le papisme est encore considéré par certains comme quelque chose qui est pas bien. Bon, mais on peut considérer que la Constitution américaine, les constitutions des États, et un certain nombre de dispositions de la justice américaine d'aujourd'hui viennent de la Grande Charte par l'intermédiaire de la loi d'habeas corpus. Parce que cet article 39 de la Grande Charte, il faut reconnaître, il n'a pas été appliqué la plupart du temps. On y faisait référence. Tout le monde y faisait référence, mais il n'était pas appliqué. Et c'est pour ça que j'en suis venu à Charles II, donc très tard, c'est en 1672, je crois. Charles II a fait voter par le Parlement l'habeas corpus qui est toujours en vigueur dans les pays anglophones, anglo-saxons.
Non, mais je disais ça, excusez-moi de cette petite remarque sur les Claude Fouquet qui enjambe les siècles, mais je pense aux nouveaux auditeurs de Radio Courtoisie, il en arrive tous les jours, et notamment Aujourd'hui, il en est arrivé des milliers qui sortent tout droit de l'école républicaine et,
donc,
qui, mettent,
et, donc, ils ne
et qui mettent Vercingétorix comme une un contemporain de Jeanne d'Arc. Donc, vous comprenez qu'il faut donner des dates. 1204. Je me suis trompé de 10 ans. Je me suis trompé de 10 ans. Pardonnez-moi, mais c'est 1204, la Grande Charte en Angleterre. Alors, je crois simplement que c'est très important de comprendre que cette Grande Charte était certes un document catholique, mais tout était baigné à l'époque dans la religion, dans une atmosphère religieuse, spirituelle. Et de plus, les clercs étaient non seulement férus de théologie et compétents en la matière, mais ils étaient aussi les seuls qui savaient vraiment le droit, le latin, et qui pouvaient écrire. Eh bien, cette Grande Charte n'est compréhensible que comme la consécration des droits féodaux qui eux-mêmes viennent des droits germaniques. Des droits germaniques des populations païennes. Lisez par exemple les sagas ou les Eddas sur les populations scandinaves, les Islandais. Les libertés étaient vraiment vraiment enraciné dans ces traditions.
Si vous permettez, je crois qu'il y a eu une combinaison des deux.
Absolument. Absolument.
Il y a eu, dans le droit germanique, il y a eu un certain nombre de, on pourrait dire, d'avancées égalitaires. Il y avait ces fameux champs de mai où les guerriers élisés pétaient sur le pavois. On a beaucoup raconté ça et c'était vrai pour les francs, etc. Il y avait une tradition de liberté. Ceci dit, chez les germains, elle n'était pas suffisante, elle était encadrée par l'Église. Ça a été ça, je crois, peut-être la plus grande révolution moderne du Moyen-Âge. C'est cette rencontre d'une forme de liberté un peu sauvage des germains avec la structure de l'Église. Et à la tête de mon livre, j'ai fait une citation de Paul Venn qui montre qu'il y avait une structure. Il faut bien voir qu'en 476, quand l'Empire romain d'Occident s'est écroulé, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de gouvernement. Mais il y avait l'Église. Et alors, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Sidoine Apollinaire. Sidoine Apollinaire, il ne faut pas oublier, c'était un Gaulois qui avait été préfet de Rome. Et après, quand tout s'est écroulé, il a dit du bien du roi de Bordeaux, du roi Théodoric II de Bordeaux, etc. Mais les Romains n'étaient plus rien. C'était des personnages de seconde zone. Et Sidoine Apollinaire, qui est devenu un saint, pour l'Église c'est un saint, vous savez, mais il est devenu tout simplement évêque de Clermont-Ferrand. Ça veut dire qu'en réalité, il gouvernait l'Auvergne. Il gouvernait l'Auvergne. Voilà.
Merci de cette précision. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. C'est ce soir le libre journal de Serge de Bekech, sa seconde partie, présente dirigée par Daniel Amiche, assisté de Victoria, en présence d'Henri Lesquin, et de notre invité de ce soir à tous les deux, puis-je dire, Claude Fouquet, pour son ouvrage « L'histoire critique de la modernité » aux éditions de l'Harmattan. Alors je me tourne vers Victoria, car des messages sont arrivés.
J'ai un grand message, je vous lis tout.
Oui.
Alors, non, non et non. On en a assez.
Ça commence bien.
On en a assez de voir prendre comme étalon de morale l'Ancien Testament, auquel vous croyez obligé de faire référence, notamment, et en l'occurrence, le progrès que constituerait le sacrifice d'animaux à la place de celui des hommes.
Bah oui, c'est quand même
et
progrès.
De vous y référer systématiquement. Comme si ces messieurs de l'Ancien Testament avaient inventé la morale, Dieu et le reste, et sans lesquels nous serions encore dans l'idolâtrie. La morale chrétienne existe depuis 1 million d'années, depuis l'apparition du premier homme, naturellement et divinement imprégné de Dieu, donc de sa morale, qui ne pouvait qu'être chrétienne, même si, bien sûr, cela ne portait pas ce qualificatif. Et c'est le Seigneur qui est venu la rappeler, bousculant ainsi, lui, les idoles de l'Ancien Testament que, curieusement, vous révérez-t-on. Et pour finir, à l'instar des musulmans, les juifs continuent aujourd'hui encore à égorger leurs bêtes. Est-ce aujourd'hui encore pour remplacer les sacrifices humains ?
Et à pratiquer la circoncision, qui est quand même une mutilation sexuelle.
Alors, deux choses. Ne confondons pas tout. Je parle de judaïsme de l'Ancien Testament, le judaïsme qui prépare les chemins pour l'incarnation, puisque la mission du peuple juif, c'est ça. C'est de préparer les conditions objectives et subjectives à l'arrivée du Messie. Bon, Bon. Ensuite, ce qu'est devenu le judaïsme post-christique, ça c'est une autre affaire, mais ce n'est pas le sujet de notre interrogation de ce soir. Nous interrogeons, moi je reprends encore une citation avant de redonner la parole à Victoria, parce qu'elle a des questions intéressantes, des remarques intéressantes. Le pape Benoît XVI était en Autriche il y a une dizaine de jours. Il a fait à Augsbourg, c'est pas rien Augsbourg quand même, c'était le centre du pouvoir de l'Empire d'Autriche, enfin l'Empire d'Autriche-Hongrie, enfin le Royaume de Hongrie et l'Empire d'Autriche, à Augsbourg. Et il fait un grand discours devant toutes les autorités gouvernementales, étatiques, autrichiennes, et devant les représentants du corps diplomatique. Très magnifique discours, sur l'Europe. Et il cite dans son discours, il cite un philosophe allemand qu'il apprécie énormément, qui est agnostique, c'est Jürgen Habermas, avec lequel il avait débattu publiquement, je crois, un an ou un peu plus d'un an avant son élection au souverain pontificat en Allemagne. Un débat public avec Habermas, qui est un penseur extrêmement fécond, mais un agnostique. Et le pape a le bonheur de le citer. Et il cite de lui cette... Alors je suis navré de revenir, mais le message de l'auditeur m'y invite. Benoît XVI cite Habermas qui dit « L'universalisme égalitaire, dont sont nées les idées de liberté et de solidarité, est un héritage immédiat, pourtant immédiat en philosophie, de la justice juive et de l'éthique chrétienne de l'amour. » Citation d'un agnostique, Habermas, reprise évidemment avec intérêt par Benoît XVI. Alors maintenant, on redonne.
Non, mais franchement, écoutez, vous n'allez pas faire l'éloge d'Habermas. Moi, je veux bien que par une concession mondaine, le pape était Benoît XVI, que je révère,
ait
éprouvé le besoin de dire du bien d'Habermas. Mais franchement, c'est un philosophe qui représente l'inverse de ce que nous pouvons penser.
J'entends. Voyons. Mais je ne dis pas le contraire.
Non, sur tous les plans, et pas simplement parce qu'il est agnostique, on peut l'être, mais parce que pour lui. Il rejette l'identité, et c'est celui qui a inventé, je crois, le prétendu patriotisme constitutionnel.
Oui, mais ça m'a été collatéral. Le pape cite cette citation. Il n'est pas obligé de le faire pour des raisons mondaines, puisqu'il n'est pas en Allemagne, il est en Autriche.
C'est un discours qu'il a fait écrire par un de ses collaborateurs.
Ce type de discours, je ne suis pas très sûr.
Je crois que là, le pape a fait une courtoisie.
Voilà.
À l'école de Francfort.
Oui, il a eu bien
tort. L'école de Francfort est la première école philosophique. En Allemagne, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est tout. Alors, on ne va pas discuter ici de l'école de Francfort. D'ailleurs, je pense que tout ça est dépassé. Ce sont justement les inventeurs de la postmodernité. C'est pour ça que je me permets d'intervenir, que je descends évidemment dans un chapitre que j'intitule « La postmodernité ». Il n'y a pas de postmodernité. La postmodernité, c'est le contraire. Et Girard l'a dit aussi, c'est le contraire de la modernité. C'est le retour en arrière. Il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas de justice. Et rien ne vaut. Voilà. Alors, que le pape était gentil avec Habermas, très bien. Mais
Il fait une citation qui est très particulière d'Habermas.
Oui, c'est très particulière. Alors, Habermas, comme tous les écrivains, comme tous les philosophes, on n'arrive pas à avoir raison tout le temps, mais on n'arrive pas, je suis persuadé que je n'ai pas raison tout le temps dans mon livre, mais on n'arrive pas à avoir tort tout le temps non plus. Donc, ce pauvre Habermas, dans cette phrase-là, je pense qu'il a eu raison.
Voilà. Ça peut arriver, même les gens contents peuvent avoir tant de raisons, et la réciproque est vraie aussi, Élysée de Versailles. Alors,
peut-être Victoria. Un mot sur la longue lecture qu'a faite Victoria. Je crois que cet auditeur croit à la théorie de la tradition primordiale.
Oui, c'est cela,
qui est une
chose un peu curieuse, oui.
C'est une doctrine...
qui n'est pas très catholique.
Qui est totalement anti-catholique, mais qu'on trouve chez certains auteurs réputés comme catholiques. On la trouve chez Joseph de Maistre.
Oui.
C'est une forme de gnose.
Oui. Voilà, c'est une forme de gnose.
C'est Maistre, de Maistre, Joseph de Maistre, Evola, Guénon, etc. Bon, c'est une doctrine souvent ésotérique, mais qui n'est pas vraiment chrétienne.
Enfin, je maintiens quand même que l'égorgement des animaux, que je réprouve, est quand même préférable à l'égorgement des êtres humains, que je désapprouve. Oui.
Alors non, mais c'est un argument qui consiste à dire j'approuve le vol parce qu'il est moins mal que le meurtre.
Mais
franchement,
c'est un
sophisme total.
Mais c'est pas un sophisme,
cher Daniel.
Mais c'est ainsi que
j'approuve le péché véniel parce qu'il n'est pas un péché mortel.
Mais c'est ainsi que l'humanité a progressé. Elle a progressé comme ça. Elle est passée de cela. Écoutez.
Alors revenons tout à l'heure à
la loi du talion. Parce qu'on remettre le couvert. La loi du talion qui pour nous semble une chose.
Normal?
Non, pas normal.
Ah bon, pas normal?
Bah, précisément pas normal. Pour un œil, pour une main, etc. Eh bien non, elle est pas normal, parce qu'il faut voir, il y a des tas de circonstances, il faut étudier ça. Non, non, la loi du talion, alors là, vous êtes, c'est vous qui êtes un sacré réactionnaire. Mais c'est un progrès. C'est un progrès. Tuer une personne qui a tué, c'est mieux que détruire tout le village dont est issue la personne qui a tué une personne dans un autre village. Enfin, ça tombe sous le sens. Encore une fois, le progrès de l'humanité, c'est ça. Ce sont des petites touches qui avancent. Je maintiens donc que les
Donc, si les Américains connaissaient la loi du talion, ils n'auraient pas fait Hiroshima et Nagasaki.
Sans doute.
Voilà.
Sans doute, oui, alors, vous voulez...
Ce qui prouve qu'en fond, il devrait mieux lire l'Ancien Testament.
Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur Hiroshima et surtout sur Nagasaki, qui était comme la ville la plus catholique du Japon. Mais enfin, passons. Alors, des messages auditeurs.
Petit message. Abracadabrantesque, ils l'ont écrit de travers, est un mot rimbaldien et exact. Donc pas oui. du tout du prédécesseur de Sarkozy.
Non mais là sur ce point, excusez-moi, Chirac l'a utilisé, on lui a soufflé bien entendu, parce que Chirac est un culte, donc bien entendu il n'avait pas lu Rimbaud. Peut-être ne savait-il même pas qu'il était Rimbaud, mais c'est Villepin qui lui a soufflé. Villepin, lui, est
un peu plus cultivé.
Il est cultivé.
Je crois que vous confondez la démocratie avec la liberté individuelle. Alors qu'en fait, le plus souvent, la démocratie tue la liberté individuelle.
Un commentaire, peut-être.
C'est moi qui dois répondre à ça.
Peut-être, oui.
Bon. Eh bien, effectivement, ça n'est pas faux. Nous parlions tout à l'heure de Daniel avait cité Girard, qui disait que la modernité ne venait pas d'Athènes, mais de Jérusalem. Donc j'en profite pour parler un peu d'Athènes. Pourquoi pense-t-on à Athènes ? À cause justement de cette démocratie athénienne. Seulement, c'est vrai, cette démocratie athénienne n'avait rien de libertaire, car elle représentait très peu. On pense que l'assemblée du peuple, c'était... au maximum 4000 citoyens. 4000 citoyens sur plusieurs centaines de milliers de résidents de l'Attique, dans lesquels il y avait probablement la moitié d'esclaves, peut-être plus, on ne sait pas. Vous savez, les historiens se disputent là-dessus, c'est très intéressant, mais la démocratie, en réalité, était une oligarchie. Et ce qu'on a appelé aussi la démocratie sous la Révolution n'était pas du tout... en faveur de la liberté. On n'enseigne pas, par exemple, que les Parisiens, seuls 10% des Parisiens, ont voté pour les États généraux. On ne dit pas que la Convention, c'était 5% des Français qui ont voté. Et comment votaient-ils ? Ils ne votaient pas librement. Ils votaient tout haut dans des assemblées où on était surveillé par des gens qui pouvaient vous tuer, des gens armés. J'ai fait tout un chapitre qui s'appelle « Le règne de la peur ». Et il ne peut pas y avoir de liberté là où il y a la peur. Et dans, je crois qu'il y a 196 pays représentés à l'ONU, la majorité d'entre eux sont des pays où règne la peur. La plupart s'appellent d'ailleurs des républiques. Et je veux bien, dans la République romaine régnait la peur, dans la première République française régnait la peur, dans la deuxième aussi, ouais. Dans la troisième beaucoup moins.
Et dans le RER ligne C à partir de 11h du soir, règne la peur.
Alors là où règne la peur, effectivement, il n'y a pas de démocratie. Voilà, c'est la réponse à l'auditeur que je remercie de son excellente question.
Alors moi je voulais revenir sur la question aussi de la propriété. Ça c'est une notion qui est très importante que vous développez aussi, que développait aussi d'ailleurs René Stark d'une façon très très intéressante. Parce qu'effectivement il peut pas y avoir de progrès économique et donc de développement, de progrès des nations sans que la propriété soit garantie. Et en quoi d'ailleurs donc cette histoire de la modernité recouvre-t-elle aussi l'histoire du respect et de la protection de la propriété ?
Je pense que c'est tout simplement l'idée chrétienne que chaque homme est le reflet et a été créé à l'image de Dieu. Et si chacun a été créé à l'image de Dieu, il est très difficile, par exemple, de le réduire lui-même à une propriété. C'est-à-dire que l'esclavage, comme vous savez, l'esclavage a été condamné par les pères de l'Église. Ça ne veut pas dire que l'esclavage a disparu d'un seul coup, mais l'esclavage n'a pas été un mode. À partir de la fin de l'Empire romain, l'esclavage est devenu de plus en plus une exception. Il s'est transformé d'abord en servage, et puis ensuite il a disparu. Alors il y a eu évidemment cette tâche terrible sur l'Occident, c'est l'esclavage des Noirs. Mais on oublie de dire que l'esclavage des Noirs, c'est pas les Européens qui les ont inventés. Qui l'a inventé? C'est les Africains eux-mêmes et les Arabes. Car quand les Portugais sont arrivés, on leur a dit, voulez-vous, donnez-nous des étoffes, donnez-nous ceci, cela, de la verroterie, on va vous donner des esclaves. Et les Portugais, qui étaient des pêcheurs, comme nous tous, n'est-ce pas, ils ont été tentés. Et c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Mais l'esclavage est quelque chose qui va à l'encontre du christianisme. Alors pour en revenir à la propriété, un homme libre a besoin d'une propriété. S'il n'a pas de propriété, il n'a pas de liberté. Dire que vous vivez quelque part sans avoir quelque chose qui dépende de vous, vous n'êtes pas libre. Et alors, il y a un exemple dans l'Antiquité, un exemple extraordinaire, c'est Sparte. À Sparte, il n'y avait pas de propriété, puisque on mangeait même dans des réfectoires. Les hommes mangeaient dans des réfectoires, les femmes mangeaient à part, etc. Il n'y avait pas de propriété. Et Sparte était en réalité une dictature tout à fait régressive. Et si on va se balader aujourd'hui en Grèce, il n'y a aucun monument à Sparte, enfin, il n'y a rien. Et il faut bien voir que Sparte a été le modèle des Robespierre, Saint-Just, etc., qui ont en fait commencé à imposer en Occident le totalitarisme.
C'est assez bien vu. D'autres messages, Victoria ?
Oui, enfin, une auditrice vous dit, mais oui, vous avez beau dire, l'être humain est toujours sacrifié. La misère, le chômage, c'est quoi ? Et la guerre, alors ?
Oui, mais on parlait des sacrifices religieux, pas des sacrifices. Oui, je comprends tout à fait, mais la question est un peu de travers. Henri de Lesquin, vous avez un commentaire à faire sur cette question, cette notion importante de la propriété.
Alors là, je voudrais d'abord peut-être ajouter à ce que nous avons dit à propos de l'origine de la liberté individuelle, que elle doit quand même quelque chose aux Romains. C'est la science juridique, car ni les Germains, ni le christianisme, ni le judaïsme n'ont inventé la science juridique. La science juridique, elle vient vraiment et exclusivement d'une seule source, qui est le droit romain. Ainsi que le droit de propriété. Les Germains, faute de science juridique, n'avaient pas conceptualisé la propriété comme l'ont fait les Romains. Et sans la propriété, la liberté ne peut pas se développer complètement. J'ajoute que, comme l'a dit d'ailleurs Claude Fouquet, le christianisme a adouci le sens aigu que les Germains pouvaient avoir, les Germains et les Celtes, je ne voudrais pas les oublier, avaient de la liberté, des libertés individuelles. Et a permis à cette liberté de s'universaliser, parce que, tout à l'heure je parlais de la chanson de Roland et du procès de Guénon, cette notion de liberté s'appliquait à une minorité de la population. Les serfs n'étaient pas inclus dans cette, en tout cas pas de la même manière, d'une manière extrêmement limitée. Donc il y avait des hommes libres et puis d'autres qui ne l'étaient pas. Alors d'où cette discussion sur l'esclavage. Alors je ne crois pas, et là sur ce point, pour la première fois peut-être avec cette permission, je vais contredire Claude Fouquet. Je ne crois pas que les pères de l'Église aient jamais condamné l'esclavage.
Alors, si, ça a été condamné. Non, mais ça a été même condamné à l'époque. Pas l'esclavage antique.
Je crois que
l'Église,
Rodney Stark le rappelle, les papes à l'époque des grandes découvertes ont condamné l'esclavage, etc. Mais c'est relativement récent à l'époque, à l'ère du, sur la durée des siècles. Et donc, les pères de l'Église, comme Jésus lui-même, se préoccupaient du salut des âmes et pas de réforme sociale. Et ne se préoccupez pas de condamner l'esclavage. Il ne faut quand même pas oublier que Jésus, dans l'Évangile, côtoie des esclaves.
Bien sûr.
Une grande partie de la population était esclave. Et à aucun moment, il ne demande l'abolition de l'esclavage. Il demande que l'on reconnaisse dans les esclaves des hommes qui ont une âme et ce qu'on leur doit en tant qu'homme. Mais il ne demande pas, il ne se préoccupe pas de politique et de réforme sociale. Jésus ne propose même pas un nouveau code de l'esclavage.
Saint-Paul évoque le problème. Il évoque le problème pas seulement.
Il ne demande pas l'abolition de l'esclavage.
Non, évidemment, non, ce n'est pas aussi radical que ça, encore une fois. On est dans un monde où l'esclavage est une chose qui va de soi, comme les feux tricolores.
Alors, les philosophes stoïciens le justifiaient par la doctrine du moindre mal. Notamment, parce qu'ils disaient, mais en période de guerre, le droit naturel permet aux vainqueurs de tuer les vaincus. Mais s'il n'y a pas l'esclavage, il va tous les tuer, ces prisonniers de guerre. Il ne fera pas de prisonniers, il tuera tout le monde. Ça, c'est... Eh bien, grâce à l'esclavage, les vaincus ne seront pas massacrés sur place, ils seront sauvés. Alors peut-être seront-ils maltraités, mais ils seront sauvés.
Je voudrais quand même intervenir là, en tant que, non pas en tant que théologien, mais en tant que historien, je lis l'Évangile. Et dans l'Évangile, je ne trouve rien qui puisse encourager l'esclavage.
Ah bien entendu.
Et dans toute l'attitude du Christ, en particulier tendre l'autre joue, c'est contre la guerre aussi. Alors bon, il y a cette phrase, je suis venu apporter le glaive qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est une exception dans les Évangiles. Les Évangiles, c'est un monde quand même où le Christ nous a donné l'exemple de la bonté et de l'amour du prochain. Et dans un système d'amour du prochain, on ne peut pas lui faire la guerre, ni le réduire en esclavage. Voilà ce que je voulais dire. Alors certes, c'est pas un réformateur social, c'est pas un socialiste, comme certains l'ont dit, le Christ c'était pas un socialiste, mais le christianisme est profondément hostile à l'esclavage.
Non mais écoute, je suis d'accord là. Si vous me dites le christianisme, c'est la religion de la charité, Deus est caritas, comme a dit Benoît XVI, et que évidemment la conséquence de la charité, c'est que la réduction d'un homme à l'état d'esclave est insupportable dans des circonstances historiques et politiques qui permettent l'abolition de l'esclavage, qui n'étaient pas les circonstances des premiers siècles. C'est tout ce que je veux dire. Et il ne faut pas faire d'anachronisme. Vous êtes qui ne devrait pas faire, excusez-moi, une forme d'anachronisme. Mais oui, parce que il ne faut pas prêter au père de l'Église des préoccupations qui n'étaient pas les leurs. Parce que au fond, si on considère ce qui après tout devrait être l'opinion de tout chrétien, que ce qui compte, c'est le salut éternel et pas tellement ce qui se passe sur terre. Tout cela est relativement secondaire.
Enfin, saint Paul dit bien qu'il faut traiter convenablement ses esclaves quand on en a, parce que ce sont des personnes humaines. Ce qui n'était peut-être pas exactement le sens de toute l'Antiquité. Toute l'Antiquité n'a pas considéré les esclaves comme des personnes humaines, mais aussi comme des biens meubles. Alors, encore un ou deux messages.
Alors, l'esclavage a commencé en Afrique, du temps de la reine de Saba. À l'époque du Christ, ça existait encore. C'était la main-d'œuvre de ce temps-là. Et ça a été supprimé après quand on a...
C'est universel, l'esclavage.
Non, l'esclavage est beaucoup plus ancien. J'ai été à un certain moment en contact avec Gaston Boutoul. Gaston Boutoul était un historien qui a inventé la polémologie, la science de la guerre. Et lui disait que la guerre est née de la fin de l'agriculture. Parce que jusque-là, tant que l'homme était cueilleur-chasseur, il n'accumulait pas suffisamment de biens pour que la guerre soit payante. Et c'est à partir du moment où on s'est mis à cultiver, donc à engranger, à stocker, que s'emparer des biens, des nourritures de l'autre, on le laissait crever de faim et on pouvait manger. Donc c'est là qu'est née la guerre, c'est là qu'est née et aussi probablement l'esclavage. Donc voilà, c'est la réponse. Alors c'est pas né du tout à l'époque de la guerre de Saba. C'est une, quelque chose d'universel. C'est né probablement à l'époque où l'humanité a basculé vers la culture.
Je me demande.
Du paléolithique au néolithique.
5 minutes, Henri de Lescat. Donc je vous donne 1 minute pour faire grandir, parce que
j'ai l'impression que Boutoul était un disciple de Rousseau, qu'il croyait à l'état de nature paradisiaque. Rappelez-vous la guerre du feu, il y avait au moins un bien qu'on pouvait prendre chez l'autre, c'est sa femme.
Oui.
Voilà. Hein. Et le rapt des femmes, c'est aussi vieux que l'humanité.
Alors, encore une...
C'est nous.
Ben oui, je vous en prie.
Saint Paul n'abolit pas l'esclavage. Il renvoie l'esclave fugitif à son maître, en l'obligeant à le considérer comme un frère, c'est-à-dire comme un enfant.
C'est ce que j'ai dit.
Voilà.
Alors, Merci. Alors donc merci beaucoup Claude Fouquet pour ce beau travail, ces belles explications ce soir. Merci Henri Desquet d'avoir participé à ce débat très animé.
Merci de m'avoir invité.
Ouais, très animé.
M'avoir permis de dire tout le bien que je pense du livre de Claude Fouquet, Histoire critique de la modernité.
Aux éditions de L'Armatan, chez tous les bons libraires et peut-être même chez les mauvais. D'ailleurs, on peut le trouver. Donc c'est un livre qui vaut 19 euros. C'est pas très très cher. Il fait 212 pages.
Il est moins cher sur Internet. On peut le voir sur Internet à 18 euros, 18,05.
Si vous n'avez pas d'argent, volez-le, mais lisez-le.
Mais lisez-le.
Alors, je plaisante, bien sûr, je plaisante.
Un message rapide.
C'est-à-dire, c'est pour. C'est complètement en dehors de ce que vous avez traité. À propos de constatation, nous dit cet auditeur, je me suis rendu vendredi dernier à l'église Saint-Georges dans le 19e.
Oui.
Et là, il n'y avait que des gens âgés de plus de 60 ans. Ça donne à réfléchir, c'est évident. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de messe en latin.
Bien sûr, bien sûr. Non, il y avait 230 personnes, il y a quelques jeunes. Enfin, moi, je me compte
pas.
Enfin, il y avait moi, il y avait donc un vieux. Enfin, moi, il y avait aussi des jeunes. Non. Alors,
je peux dire que ça se refait, la messe jeudis, se refait à partir de maintenant tous les jeudis.
Tous les jeudis,
voilà,
une messe, voilà, très bien.
Église Saint-Georges.
Un curé extrêmement dynamique. Alors, il reste 3 minutes. Donc, nous en reparlerons pas ce soir. Donc, je veux juste rappeler quand même qu'il y a le Café philosophique de droite organise le jeudi 27 septembre, c'est dans pas très longtemps. À 19h, un débat, une conférence avec Maître Valéran de Saint-Just sur les notions de légitime défense. C'est un sujet qui est intéressant. Alors le problème, c'est que toujours compliqué pour le Café philosophique de droite. Il faut aller sur leur site internet pour savoir où ça se passe et comment
et
ça
notre ami Valéran de Saint-Just n'est pas le cousin de Saint-Just. Voilà,
ah non,
l'arrière-petit-neveu du Saint-Just de la Révolution. Il me l'a confirmé à l'antenne parce qu'il est venu dans mon émission récemment.
Alors,
rien à voir, il n'a ni les idées ni la...
Le site internet, c'est caféphilo de droite, en un seul mot, blogspot.com. Je rappelle donc que dimanche 23, toute la journée, c'est la convention de l'Agrif en Ile-de-France au domaine de Grand Maison. On vous en a parlé tout à l'heure en première partie. Et donc, à présent, il nous reste 2 minutes, je donne
pour
la parole.
Pour que je dise
ultimement
que le Parti populiste tiendra la 3e université de rentrée les 22 et 23 septembre prochains à Tournus, en Saône-et-Loire. Il annonce la présence de Jean-Marie Le Pen au banquet de clôture le dimanche à 12h30. Alors, pour vous renseigner, vous pouvez écrire, le mieux c'est encore l'internet, info@parti-populiste.com. Et puis, le docteur Dor, pour SOS Tout Petit, vous invite le samedi 22 septembre à 14h30 à une manifestation Place Saint-Michel à Paris.
Eh bien, c'est bien. Puis alors, ce qui est très bien, c'est qu'il nous reste encore 2 minutes.
Je redonne, attends.
Grave.
Je redonne, les deux, on m'a demandé de redonner les références des deux livres de Cohn, C-O-H-N.
Norman Cohn.
Remerciement donc de les donner, me dit cet auditeur qui est gentil. Norman Cohn, 1. Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen-Âge, et 2. Les fanatiques de l'Apocalypse.
Alors, je n'ai pas l'éditeur, je suis désolé.
On peut pas tout avoir. Mais là, par contre, le livre de Claude Fouquet, c'est aux éditions de L'Armatan.
L'Armatan, qui est un très bon éditeur, donc, entre parenthèses. Notamment parce qu'il édite...
Histoire critique de la matière. Il y a beaucoup de bons textes qui paraissent, mais voilà, en tout cas, on est heureux d'avoir eu ce soir...
L'Armatan, c'est 5 et 7 rue de l'École Polytechnique. Paris 5e. Et le prix, c'est 19 euros.
Eh bien, dites donc, vous en savez des choses, Victoria, c'est extraordinaire. Enfin, c'est vrai que je vous paye très cher, donc il faut faire un petit peu de travail.
19 euros, comme disait Serge Le Becquet.
12 euros, même. 1 euro.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité,
d'avoir bavardé avec nous, amicalement, librement, avec des petites controverses, qui est très agréable d'ailleurs, ça anime tout à fait ce genre d'émission. Merci beaucoup, Henri Desquin. Merci, chère Victoria. Merci à nos amis auditeurs. Moi, je les retrouve dimanche matin, je crois. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, présenté successivement aujourd'hui par Bernard Anthony et par Daniel Amiche, qui était assisté de Victoria. Cette émission a été diffusée en direct, mercredi 19 septembre 2007 de 18h à 21h, en différé, jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance. Merci. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Vieille tradition, pour la gloire.